Bonjour les amis, fin des vacances, vacances studieuses, hein, il y a eu des revues de presse quand même. On est de retour à Paris, on est de retour à Paris. Ouh, Sugar, il a raison. On est de retour à Paris, d'où la notification de ce live, la matinée indienne en direct de Paris. Puisque nous avons été en direct du Maroc pendant une semaine. Mais avec une revue de presse tous les matins, on avait emmené le petit setup. Comment ça va vous? Je regarde si le son est ok, le son est ok. J'ai l'impression que vous m'entendez, la caméra est allumée. Et Sugar a raison, il a reconnu. Le teint lumineux, frais, shiny, du running, oui, ça y est, voilà, c'est l'une de mes les fameuses bonnes résolutions du mois de mai. Plusieurs mois sans sport, trop de travail, trop de bonheur à streamer, les enfants, famille nombreuse. Voilà, donc, et là, on s'est dit, c'est ça n'est pas possible. Summer body is coming. Pas sûr, mais bon. Voilà. Donc, le constat était que dans ma nouvelle vie de papa, de famille nombreuse et de streamer assidu, le sport avait de moins en moins de place. On se dit, je vais courir l'après-midi. Puis finalement, il y a toujours des teams, des réunions, des trucs, des projets, des machins. On va streamer le soir, mais non, le soir, il y a la famille et puis toujours un peu de taf. Et donc. Ah oui, c'est vrai qu'il faudrait que je m'occupe. Salut Arthur Isio. Ah oui, c'est vrai que je reçois beaucoup de messages comme ça. Je vais essayer, mais c'est compliqué, je reçois beaucoup. Des messages pour les mariages, pour les... c'est adorable. Il faudrait que je reçois beaucoup de messages et je ne prends pas le temps d'y répondre. Ouais, encore une illustration du problème d'emploi du temps. Et donc on a eu cette idée, collectivement, que la bonne idée serait de rajouter, de faire revenir le sport à un moment qui ne pouvait pas être impacté par du stream, ou une réunion, ou un Teams, ou que sais-je. Voilà. Merci. Et du coup, il n'y a qu'une solution. C'est le matin avant de streamer. Donc ce matin, le réveil a sonné relativement tard, hein, par rapport à une époque, c'est-à-dire 6h30. À 7h, on est dehors. À jeun, un petit peu d'eau quand même. À jeun, on a couru tranquille, hein, de 7 à 8. Douche, quand même. Emmener les enfants à l'école. Et stream. Et si on s'y tient, il y a moyen qu'on retrouve. Une forme d'hygiène de vie. En tout cas, ça te fait pas mal au dodo de courir trop vite après le réveil. Bon, ah, il me faut un quart d'heure. Ah, au dos. Ah non, au dos, non. Merci Pierre-Yves pour le 49e mois d'abonnement. Merci Fiwi pour ce 3e mois, c'est gentil. Merci Tranquille pour ce 14e mois. Merci You Don't Know Me Fleur. Oh, c'est joli ça. Pour le 4e mois. Oh, joli pseudo. Merci Tortue Haché. J'allais dire le premier à sub ce matin. Non, Lilou, vous savez qui? 37 mois d'abonnement, merci. Merci, merci Lolo de Bixel, comment vas-tu? Pour le 55e mois d'abonnement et merci à Dictart à l'instant pour le 5e mois. C'est incroyable. Petit rappel que le sport à jeun, c'est délétère pour les femmes. C'est pas bon le sport à jeun pour les femmes? J'ai jamais vu ça, moi. C'est nouveau? Merci, Chabalbert 13 à l'instant pour ce prime que tu lâches. Et on met quoi dans le SAM pour qu'il ait autant d'énergie? Bah, en vrai, je savais de toute façon que chasser le sport de ma vie, le sport qui a été un soutien incroyable, qui a été un pilier essentiel de ma vie pendant, n'ayons pas peur des mots, des dizaines d'années, n'était pas une bonne idée. Donc, non, le café, Elisabeth, tu seras surprise. C'est mon premier de la journée. Merci Jérôme. C'est une boulangerie. C'est mon premier de la journée. Alors, normalement, c'est janvier les bonnes résolutions. Moi, c'est mai. Donc deux bonnes résolutions en mai. Un, on reprend le running au quotidien. Bon, en mode lent. Hein. Ce matin, j'ai fait un tour j'ai fait quelques tours de parc là. J'en ai doublé personne. Mais personne. À une époque, dans mes belles années, c'était la cavalcade. Hein, c'était le sprint. J'en ai doublé personne. Par contre, j'ai été doublé, ouais, par à peu près tous les gens du parc. Tout. Combien t'ont doublé? Bah tous. Je regarde combien t'ont doublé. Bah, tous les gens du parc. Tous les gens qui tournaient sur l'anneau du parc m'ont doublé. Tous, sans exception. Voilà. Donc, ouais, bah, c'est la reprise. Non, pas des gens qui marchaient, des gens qui couraient. Maintenant que tu me le dis, j'ai doublé quelqu'un qui marchait, ouais. Mais pas fort, hein. Pas vite. Hein. Ouais. Ouais, bah, c'est la reprise. Bon, il y a un petit bedou à perdre. Il y a des petits lolos à faire disparaître, là. Voilà. Mais bon, il fut un temps où... Mais bon, on va essayer de retrouver un semblant de forme. C'est pas tant pour. T'as doublé quelqu'un. T'as doublé quelqu'un assis sur un banc. Ça, tu fais chier, hein? Bartino. En vrai, elle est bonne. Qu'est-ce que je disais? Oui, l'objectif n'est pas tant de retrouver mon meilleur niveau. L'objectif étant de retrouver une bonne hygiène de vie pour qu'on soit là en stream pendant des siècles et des siècles. La petite couvade, mais maintenant Pio est né. Ben oui. Ben oui. C'était. Souvent on dit que les papas ils prennent 2-3 kilos quand à la naissance d'un enfant. Sur le troisième, ouais. Sur les deux premiers, non. Sur le troisième, moi ouais, j'ai pris un petit bedou. Petit bedou. Ah, je vois bien. Il est là le bedou. Merci Ezekiel pour le sixième mois et ton message qui est adorable. Bon, fin des vacances hein, pour ceux qui étaient en vacances, fin du week-end pour ceux qui étaient en week-end. Et on est reparti non-stop. Hein, il n'y a aucune raison qui doit nous empêcher de streamer non-stop jusqu'à, j'allais dire, la fin juin. Non, parce qu'en juillet, on va streamer depuis la Corse tous les jours. En août aussi depuis Paris. Non, non, bah non. Si j'ai un déplacement à Biarritz en juin qui pourrait m'empêcher de faire une revue de presse parce que ça me soulotte un peu d'emmener mon setup pour une revue de presse dans un hôtel où j'aurais peut-être pas de la connexion. Faudrait que je demande à Joe qui est peut-être toujours avec nous. Parce qu'en fait, ce qui est lourd quand j'emmène mon setup de stream, c'est surtout la table de mixage. Parce qu'en fait, le PC portable, du coup, ça prend pas beaucoup de place. Le deuxième écran, on peut peut-être se passer de deuxième écran pour streamer, de la revue de presse, je pense. Et donc, je me demande si je pourrais pas streamer, mais genre avec le micro intégré du PC. Et la caméra intégrée du PC. Imagine la qualité. La qualité du stream, hein, bien caca, je sais pas si ça peut pas se tenter ça. Tu vois, genre vraiment setup light, le micro webcam, je suis pas sûr. À la limite un petit micro cravate. Ouais, mais il faut l'acquérir. Il faut que je la, il faut que je l'acquérisse. Il faut que je l'acquière. Joe est parti au sport, donc. Okay. Merci Shazia. Tu vois, micro-cravate, le mec qui passe. Je suis pas sûr de pouvoir le connecter direct au PC. Ah, moins que. Avec un jack. Ah, mais attends. Faut que je regarde les ports. Un micro-cravate USB à 30 € sera toujours mieux que le micro-PC. Mais moi, j'ai des micro-cravates de fou en plus. Jack Daniel? Non, j'ai arrêté ça. En USB, il y en a maintenant? Ah, bah voilà. Tu vois, l'idée, c'est d'arriver à un setup le plus light possible, sans table de mixage. Ça pourrait être marrant, en vrai. Et or, j'ai un PC portable, pas celui que j'ai emmené, mais un autre, là, qui a moult port, moult jack, moult port USB. Ouais. Ok. Ok. Ça se tente ça. On va tenter ça avec Joe. L'idée, ce serait d'avoir un setup encore plus léger que celui que j'emmène en Corse ou au Maroc. Tu vois? Genre un. Ou alors tu loues du matos sur place. Non, parce que c'est vraiment poussé pour une matinée. Une matinée, tu vois. C'est un déplacement, je serai à l'hôtel, je serai à Biarritz. Demande à Klevitch, il a un setup réduit exprès pour ses tournées. Ah, ok, ouais. Ok. Il faut contacter Gozultime. Gozulting, pas Gozultime. Gozulting, la boîte de prod. Pour un devis à 100 000 euros. Ouais, t'as raison, je vais faire ça. Je les aime bien, hein, j'adore bosser avec eux. Et ils m'ont fait beaucoup de prod, mais c'est du truc de pro, quoi. C'est pas pour le petit stream artisanal dont je vous parle. Bonjour, bonjour, vous avez vu qu'il y a une nouvelle plainte sur Charlie? Ouais, j'ai vu ça, ouais. Tiens, en avant-première mondiale. Il est où le sommaire? Le sommaire de ce matin. Non mais c'est une bonne idée de demander à. Vous me donnez deux pistes intéressantes. Le micro en USB sur le PC directement, sans passer par une table de mixage. Donc là, on gagne du temps, du poids, plein de choses. Et demander à l'ami Clément qui est adorable par ailleurs et qui est un mec formidable et qui fait ensuite un contenu de fou. C'est vraiment incroyable ce qu'il fait, hein. Clément, c'est génial. Quel est son setup allégé en tournée? Parce qu'il est en tournée pour son spectacle depuis un moment déjà, qui cartonne d'ailleurs. Et c'est une très bonne idée. Vous êtes formidable. Merci Martine Laine. pour le septième mois. Oui, effectivement, nouvelle plainte contre Charles Alonso, on en parlera. J'avais prévu de vous parler très vite fait à la fin d'un article du Parisien qui disait mais où on en est du rapport. Donc d'après dernières infos, on l'attendait aujourd'hui, mais il sera publié demain matin. Il y a le Figaro qui en parle beaucoup ce matin en disant on exclut tout le contenu, puis en fait, quand tu lis l'article du Figaro, bah, tu as toutes les infos que tu avais déjà depuis plusieurs jours, donc finalement, j'ai pas trouvé ça très intéressant. Tu as un article du Parisien qui dit où on en est. Et puis effectivement, ce matin, en surfant sur les réseaux et sur Internet, j'ai vu qu'effectivement, il y avait une nouvelle plainte pour prise illégale d'intérêt qui le visait. Après, nouvelle plainte, parce qu'il y a celle de Nagui déjà, donc ça en fait deux, déjà, à ce jour. Salut, une histoire de paix. Ah, le setup de Clément, justement, a été réalisé par Gozulting, me dit Camille. Hein. Ah, il a demandé à Gozu de faire ça. Hein, c'est pas mal. Et donc, ils lui ont. Alors, j'ai peur qu'avec Gozu, soit un peu lourd. Hein. Mais en même temps, moi, je bosse beaucoup avec eux. Par exemple, le dernier jeu qu'on a fait, vous savez, le Réponse Cache 2, là, qui était vraiment. C'était Gozu, par exemple. C'est une boîte de prod qui fait des prods sur Internet. C'était Gozu, le réponse cache 1, c'était Gozu. Le jeu, le bingo qu'on avait fait avec Célio, c'était Gozu. Ouais, c'est une super boîte. Avec Joe, on adore bosser avec eux. C'est carré, c'est propre. Toujours carré. Mais bon, pour une question comme celle qu'on vient d'évoquer de setup léger, quand on a un Joe, dans la famille, on n'a pas besoin de Gozu pour un truc comme ça, quoi. T'as tout à l'heure, Camille. J'ai dit bonsoir? Attends, j'ai dit bonsoir dans la notif? Pourquoi j'ai dit bonsoir? Bonsoir, bienvenue dans la matinée, Étienne. C'est à cause du décalage horaire? Où est-ce que je dis bonsoir? Où est-ce que je vois un. J'ai pas dit bonsoir. Mais qui dit bonsoir? Qui dit bonsoir? En haut du sommaire? Oh putain! Comment ça se fait? Comment ça se fait? Mais quelqu'un vient de corriger en live en plus. Et en plus, quelqu'un vient de corriger en live et c'est pas moi. Très bizarre ça. Ça n'a aucun sens qui a écrit bonsoir, on a été bonjour toute la semaine. C'est un truc automatique. C'est bizarre ça par contre. Non, c'est un truc automatique. Le truc de base, c'est bonjour. Je sais pas, quelqu'un a dû mettre bonsoir. Bon, bizarre. Surtout que toute la semaine, on a streamé le matin, donc ça n'a aucun sens. Ah, si! Si, je sais. Ah, waouh, waouh, waouh! Dans ma nouvelle méta, je prépare la revue de presse la veille au soir. J'ai lu tous les journaux hier soir jusqu'à 1h du mat à peu près. J'ai fait le sommaire hier soir. Et j'ai fait le sommaire hier soir. Donc le sommaire, c'est bourré d'IA, ces trucs-là, hein, c'est très intelligent. Elle dit, ok, c'est le soir, donc bonsoir. Ah, ok. Je l'ai, je l'ai. Comme quoi l'humain sera toujours plus fort. Oui, mais c'est bête du coup. Bah oui, mais justement, c'est rassurant, je trouve. C'est-à-dire que le cerveau humain sera toujours plus malin, quoi. Enfin, ça dépend quel cerveau, hein, puisque dans l'actualité, je vais vous parler de trois cerveaux ce matin qui vont pas fort. Hein. Hein. Regardez, il y a des. Si vous regardez bien dans le sommaire, là, si vous cherchez bien, il y a quelques noms dont on peut se demander si ça fonctionne vraiment bien, quoi. Je vous dirai pas lesquels, comme ça vous pouvez vous créer votre petite polémique tout seul. Les fameux cerveaux lents, exactement Charles-Henri. Il y a Charles à Henri à l'oncle qui vient de sub pour le troisième mois d'abonnement. Ça n'est pas le vrai. Hein. Ce n'est pas celui qui est visé par une deuxième plainte dans l'actualité. C'est un autre. C'est un qui sub. On préfère celui qui sub. Le rire de con. La réforme en demi-teinte de la réforme de l'apprentissage, il est pourri mon titre. Là, c'est le bilan de. Putain, on voit que j'ai fait ça hier soir. Le bilan en demi-teinte. On voit que j'ai fait ça hier soir. Alors, le soir, t'as l'impression que ton cerveau est vif. T'sais, en lisant les journaux hier soir, je me disais, waouh, ton cerveau est tellement vif, tu es tel un shinobi de l'info. Et en fait, c'est une impression. C'est le bilan en demi-teinte. Voilà. Voilà. Je vous lis, je vous lis, je vous lis. Merci les Marie obèses, tu régales. 48 mois, pop, 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 48 mois d'abonnement. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui soutiennent cette chaîne depuis des quarantaines, des cinquantaines de mois consécutifs. Pop, 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 pop. Quand tu as l'impression que ton cerveau est boosté, c'est souvent signe de l'inverse d'Inérim. Oui, la drogue par exemple. La drogue vous donne l'illusion, certaines drogues, que votre cerveau est boosté, alors que vous êtes con comme une huître. Eh ouais. Quand vous prenez cette daubasse là. Voilà, sommaire. Voilà. Résumé de cette info, ne prenez pas de drogue. Aucune. Bim. Votre corps est un temple, votre cerveau est un temple. Rien là-dedans. Ok? Balle perdue pour les huîtres. Oui, bah, jusqu'à preuve du contraire, hein. Les huîtres, c'est pas. C'est bon, les huîtres. Pour ceux qui aiment les huîtres, j'aime pas les huîtres. Mais c'est tout, quoi. Le sommaire, les répétitions. Ouais, j'ai deux, trois petits trucs, ouais. Ma drogue, c'est toi, s'il faut que j'arrête. Non, c'est. Non, non, c'est. Test ban. Non, non, non. Une bonne drogue, ça. Le Maroc, il a changé. Oui, on est revenu, on peut pas rester au Maroc. Ever, quand même. Bonjour, la grosse surprise est arrivée. Mélenchon est candidat. Tupac a raison. Ça n'est absolument pas une surprise. C'est tout sauf une surprise, bien sûr. Grenkill me dit, j'y arrive sans drogue à être con comme une huître. Imagine si tu prenais de la drogue. Imagine si tu prenais de la drogue. Merci ABNNN, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. J'irai voir ça. Dommage que le dernier sujet soit si loin dans la matinée. Je voulais ma dose de thé quotidien. Ah oui, Charles à l'oncle visé par une nouvelle plainte, c'est la dernière actu. Non, parce que c'est comme dans un JT, les informations sont classées à la louche par ordre d'importance. Voilà, à la louche, hein. Mais c'est comme dans un JT, les informations sont classées par ordre d'importance. On met les infos les plus essentielles, les plus nouvelles. Les plus étonnantes, les plus fortes, les plus susceptibles d'avoir des conséquences sur notre vie quotidienne en haut et les moins importantes en bas. Merci, Princesse Fiona, pour le soutien. Donc, il faudra attendre pour cette petite info à la fin. Bon, on va peut-être aller bosser, hein. Go remonter la croix à les free parties. Les free parties, me dit Théo, l'espèce de drogué, va. En parlant de drogue, on parle pas du Tecos ce matin? Et c'est quoi l'article de la croix sur. Il est où d'ailleurs? Ce qui motive les adeptes des free parties, c'est quoi? C'est du poulet ou quoi? Bon. Oui, free party, c'est rave party, ouais. C'est comme ça que l'appelle la croix. Moi, j'ai connu dans ma jeunesse, c'était pas arrivé en France que déjà, moi, je me trémoussais, moi. Dans les free parties, moi. En Angleterre. Eh ouais. Ça n'était pas encore en France que déjà, moi, je participais au phénomène. En 1989. Eh oui. Un teuffeur. J'avais mon camion et tout. Non, j'avais pas de camion. Mais deux, trois petites teufs. Pour la musique? Pour la musique, bien sûr. Évidemment. 801 92 34 765, merci de nous donner ton numéro de sécu. Et oui, je suis allé courir ce matin. Avant la chute du mur ou après? 89, 89, 89, après. Après la chute du mur. Comment tu payes ton voyage? En Angleterre? T'inquiète, 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 t'inquiète. Ah, on dit que rave party payant, free party gratuit. Ok. En décembre? Non, c'était l'été. C'était en. Ah, moi je suis en 90 d'ailleurs. Non, c'était en 89. Enfin, c'était 89. L'été, juillet, je crois, ou août. Alors, avant la chute du mur de Berlin? Bah non. Ah bah non, la chute du mur de Berlin. Ah non, on était déjà en 90, t'as raison. Ah oui, c'était après janvier. Non, c'était l'été 90. était 90, oui, t'as raison. Ok, moi ouais, c'est ça. C'était l'été 90. C'était l'année 89, mais l'été 90. Oui, c'est ça. T'as raison. Waouh, à lire le sommaire, ça va encore être négatif, super négatif, dit le Bloop. Bah, pour les bonnes nouvelles, t'as J'aime lire. C'était un magazine auquel j'étais abonné quand j'étais plus jeune. Tu avais les histoires de Tom Tom et Nana, c'était toujours rigolo. Tu avais des petites histoires sympas, des petites, juste un très bon livre, un très bon magazine pour les jeunes. Tu avais J'aime lire. Moi, je lisais Okapi aussi. Ouais. Fantomètre, c'était sympa. Picsou, mes enfants sont très Picsou en ce moment. Là, tu auras des bonnes nouvelles. Ouais. Là, c'est moi, j'ai moins ça. C'est vrai, j'avoue. Astrapi, très bien aussi. Astrapi, solide. Phosphore, ouais. Alors, phosphore, ça devenait un petit peu anxiogène déjà. Bonjour Samuel, si tu étais élu président en 2027, tu ferais quoi comme merch innovant pour la boutique de l'Élysée? Très bonne question de Flo Mage de Chèvre. Bonjour Samuel, si tu es élu président en 2027, tu feras quoi comme merch innovant dans la boutique de l'Élysée? Alors, je pensais notamment proposer, je sais pas, des moulages de parties de mon corps. Voilà, pour comment, parce que, évidemment, on organisera une forme de culte de la personnalité. Ce régime n'aura de démocratique que le nom, bien sûr. Hein. On sera sur quelque chose d'assez illibéral et populiste et poujadiste. De toute façon, c'est dans l'air du temps, il n'y a que ça qui marche maintenant. Voilà, on pourra acheter un buste de Samuel Etienne pour mettre dans le séjour. On pourra mettre enfin, différents moulages de mon corps. Voilà. Ce serait innovant, oui. Ce serait cher aussi. Ce serait cher. J'ai déjà un tableau de toi chez moi, me dit Dragonès, qui est extrêmement inquiétant. Ça va coûter en plâtre de tout mouler. Oui, ah bah oui. Oui. Faut bien renflouer les caisses. Ah bah ce sera pas pour les caisses de l'État. Hein. Personne connaît le petit quotidien journal pour enfants? Si, tout le monde ici. Tout le monde ici. Mon grand est abonné même. Non, non, ce sera pour moi, ça. Oh. On va pas commencer à te confondre. Hein. Tu seras déjà dans toutes les mairies. Oui, ben, je serai aussi chez tous les citoyens. D'ailleurs, je ne vous dévoile pas tout mon programme, mais ce sera obligatoire. C'est-à-dire que chaque citoyen majeur sera tenu d'avoir un moulage d'une partie de mon corps chez lui. Avec un prix réduit pour les personnes non imposables. Hein, je suis pas un chien, quand même. Merci Juju pour le 20e mois. Merci Lénia pour le 15e mois. Il y a encore l'argent public dans les poches de notre sauveur. Exactement. Pour le coup, ce ne sera pas l'argent public, ce sera l'argent privé, ce sera l'argent des citoyens. Comment ça l'angoisse? Bah, dans ce cas-là, faut pas voter pour moi. On aura le droit de te oindre, vous pourrez oindre ce que vous voulez. À ce prix-là. Réduction pour les retraités? Pas sûr. Les retraités. Oh. Non, ça va, les retraités, t'es retraité, hein? Hein, t'as mis de côté un peu, hein, tu peux bien t'acheter un petit buste. Il n'y aura pas d'enrichissement personnel? Ah si, 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 qui? Diesel dit qu'il n'y aura pas d'enrichissement personnel. Qui a dit qu'il n'y aura pas d'enrichissement personnel? Si, si, bah si. Ah bah si, 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 ah, si, c'est le projet. Bizarre. Dit Sam, Charles Lalonde est visé par une plainte de qui? Tu verras. Il y a une deuxième plainte qui le vise. Tu verras, c'est à la fin de la revue de presse. Teasing, teasing. Eh oui, t'as tease. On peut choisir le morceau? Oui, bien sûr. Alors, tous les morceaux ne seront pas au même prix. Hein. Tous les morceaux ne seront pas au même prix. Ça a été le retour en France? Oui, les gens dans l'avion étaient adorables. Pio. Pio, 2 mois, hein, qui vient de passer 2 mois. Le bébé parfait. Vous connaissez des bébés qui pleurent pas dans les avions, vous? Moi, j'en connais un. Pio, cette semaine à l'aller, n'a pas pleuré du voyage aller. Vaguement un au décollage. Et 8 mois, une semaine plus tard, le retour, pas un pleur. À un moment, j'ai entendu un pleur dans l'avion. Je me suis levé. Prêt à démarrer n'importe quel passager de l'avion qui me regardait en mode ouais, un bébé dans l'avion, quel enfer. C'était pas mon bébé, je me suis rassis. Rien, le bébé parfait. Le bébé parfait. Il est en mode chill, en mode ouais, pas de stress. Je pense que c'était le passager le moins stressé de l'avion. Ouais, 8 semaines. Oh, j'ai dit 8 mois? Ah merde. Non, non, non. On n'est pas passé de 7 semaines à 8 mois. Il est passé de 7 semaines à 8 semaines, pardon. Il a 2 mois là. Ouais. Un parfait. Tout le monde était content de le rencontrer parce qu'il y a une partie de la famille qui vit au Maroc depuis très longtemps. Donc, une partie de la famille qui a rencontré Pio, qui est évidemment le plus beau bébé du monde, mais ça, je le savais. Il faut dire qu'il me ressemble beaucoup, donc forcément. Merci à Croquezer. Merci Lénia. Ah, t'es incroyable. Et puis c'était cool. On a chillé, revue de presse le matin, famille l'après-midi et le soir. Les petits journaux, les petites balades. Sam, ça fait quoi d'avoir son premier bébé? Ça stresse, ma femme est enceinte, j'ai peur de mal faire. Polar, quelqu'un qui stresse d'avoir un bébé. C'est forcément quelqu'un qui va bien s'occuper de son bébé. Point. Donc t'inquiète, de toute façon, y a pas de bonne éducation. C'est une éducation par enfant. Donc vous allez inventer le truc. Voilà. L'enfant, il a besoin de sécurité, de se sentir en sécurité et d'amour. Enfin, donne-lui à bouffer aussi, quand même. Voilà. Et puis au niveau de sa santé, surveille un petit peu, une petite alerte, tu vas chez le médecin, quoi. Le pédiatre, il est habitué, au début, tu vas l'appeler toutes les semaines. Mais un bébé, il a besoin. S'il sent qu'il est en sécurité avec toi et qu'il lui donne de l'amour, voilà. Il sera très bien. T'inquiète. Et le fait même que tu stresses est déjà un signe extrêmement positif. Et c'est que du bonheur, tu vas voir, tu vas te régaler. Tu vas être crevé, ça va être génial. C'est de la bonne fatigue. Il va te fatiguer, mais il va te donner plus d'énergie qu'il ne va t'en prendre. C'est bénef, c'est bénef. C'est bénef. Il n'y a pas de mode d'emploi, il faut faire au mieux. Exactement, Silgay. Faut faire au mieux. Ce sera très bien, ce sera très bien. Merci Alexandra. Tu vas sûrement avoir l'impression de faire tout de travers, mais non. Ouais, ça se passe, ça se passe, ça se passe. Moi, ils m'en prennent plus qu'ils m'en donnent de l'énergie. T'es sûr, Edwatch? T'es sûr? T'es sûr? T'es sûr? Merci, Nausicaa. Merci pour le 14e mois. Ah, Rocky Bird. Il y a un petit anniversaire, c'est trop mignon. On devrait faire rouler les voitures au bébé, alors. Ah oui, à cause de l'énergie. Enfin, toutes les énergies se valent pas, hein.
Où est-ce qu'il trouve toute cette énergie?
Voilà, toutes les énergies se valent pas. En tout cas, les enfants, c'est pas rentable financièrement. Alors, à la base, c'est tu c'est, oui, effectivement, ça n'est pas un placement. Oui, bien noté, Paul. Paul qui semble nous révéler une information essentielle dans le chat. En tout cas, les enfants, c'est pas rentable financièrement. Alors, ça n'est pas l'objectif, oui, effectivement. Ça n'est pas un placement. Oui. Ça n'est pas censé te rapporter de la thune, hein, effectivement. C'est même de plus en plus cher hein, que le coût délirant du logement en France, notamment. Donc, oui, ça, c'est un vrai sujet. Mais si tu comptes te gagner de l'argent avec ton enfant, oui, annule le projet, tu vas être très déçu. Ouais. Tu vas être très déçu. Sauf projet Mbappé, projet Wembanyama, voilà. Mais ça marche pas à tous les coups, quoi. Oui, mais il y a des parents qui l'oublient, me dit Paul. Je fais un enfant pour pas être seul et pauvre vieux. Alors, s'il y a des parents qui font des enfants uniquement pour ne pas être seuls quand ils sont vieux, en général, ces parents-là sont abandonnés par leurs enfants. Non, mais il faut dire les termes, à un moment, faut arrêter de. Ça marche pas, hein. C'est-à-dire que si vraiment la seule motivation c'est de pas être seul. Et que du coup, tu t'occupes pas de tes enfants correctement parce que l'objectif c'est juste de ne pas être seul quand t'es vieux. T'inquiète, hein, quand tu seras vieux, tes enfants sont partis depuis longtemps. Hein. Donc ça marche pas non plus. Je préfère donner l'info. Abandon de vieux. Bah oui, enfin, s'ils sont pas occupés correctement de leurs enfants, à un moment, tu récoltes ce que tu sèmes aussi. Hein. Ah, pas non plus, hein. Là, tu récoltes un peu ce que tu sèmes. Bon, et si on démarrait cette revue de presse, bande de beaux gosses? Ok. Ouais. Prêt? Go? Parce qu'il y a de la matière. Qu'est-ce qu'on met sur YouTube? Qu'est-ce qu'on met sur YouTube? Moi, je pensais vous mettre Mélenchon. C'est une vraie info, non? Candidat pour 2027. Après, il y a la nouvelle plainte contre Charles Lalonde qui est tombée là, ce matin là. J'hésite, l'un ou l'autre. Mélenchon, en vrai, c'est tout frais. Ouais, on va partir sur Mélenchon, ouais. Oh, trop bien. Il y a Wanir qui fait la promo d'un festival. Je me permets une petite promo. Festival Sirène à Rennes, Citéus-Sévigné. Événement gratuit autour du cinéma, littérature, jeux de rôle, table ronde, conférence, atelier, le Pixel Brass Band, fanfare de cuivre et percussion jouant des musiques de films. C'est beau ou pas? Et jeux vidéo sera présent le samedi 9 mai à 17h. Un spectacle siège du Pilon d'Or en brin d'acier, samedi 12h30, 14h30, dimanche 13h30, 15h. Sirène, sirène. Attends, c'est pas un média ça? Attendez, il n'y a pas un média qui s'appelle Sirène? Un média bizarre, un média. Attendez. C'est pas un média. C'est comme ça, hein, il s'appelle comme ça. Hein. Attends, ils ont appelé leur festival? C'est ça, c'est un truc d'extrême droite, c'est ça? Attends, ils ont appelé leur festival à Rennes? L'espèce de le QG des teufeurs là, des punks à chiens, ils ont réussi à nommer un festival culturel du nom d'un média d'extrême droite? Putain, changez le nom, les gars, changez le nom, les gars. Vous allez avoir des visiteurs bizarres, hein. Ils avaient pas la ref? Bah ouais, mais. Vous allez avoir des visiteurs bizarres, hein. Avec des cheveux très courts, hein. Bah ouais. Ça attendait des dreads et tout, et ça, ah oui, avec des avec, ah non, 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 vous avez non. Ah bah non, 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 faut changer le nom là. Ah ouais. Ah ouais. Faut leur dire, hein. Faut leur dire, hein. On peut faire deux capsules. On peut faire deux capsules si tu veux. Ce sera pas trop, Mathieu? Allez, on fait deux capsules. Ok, Mathieu qui gère la chaîne YouTube me dit qu'on peut faire deux capsules. Mélenchon pour YouTube et à l'oncle pour YouTube. Ok, let's go. Après le média sur X. Ouais, c'est vrai que Sirène, c'est sur X. C'est très limité. Ok. Qui m'écrit? Ok. Eh ben c'est parti. Allez, je vous fais le sommaire. Ok? C'est parti. Bonjour à tous. Bienvenue dans la matinée, Étienne. Je suis très heureux de vous retrouver. On était en vacances la semaine dernière, ce qui ne nous a pas empêché de streamer tous les matins en direct du Maroc avec un petit setup de qualité, mais un setup de voyage. On a retrouvé le gros setup. On aime les gros setups et les gros sommaires ici pour la matinée, Étienne. La grande revue de presse du matin. Attention, cascade à ne pas réaliser à la maison. Je n'ai pas testé ma tablette ce matin. Il y a un monde où ça marche pas du tout. Je n'ai pas été très sérieux. Voilà. Donc, on va pour le sommaire tout de suite. Vérifier ça. Voilà. Bougez pas. Tchac. 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 Vous êtes prêts? Attention, hein. Suspense. En général, quand je fais pas ça, ça marche pas. Est-ce qu'on va être béni des dieux? Oh merde. Ah! Oh! Oh, c'est beau. Ouais, ça marche. Incroyable. Bon, amis de Twitch, bonjour, merci d'être avec nous, comme tous les matins depuis 5 ans. Amis de YouTube, merci d'écouter cette autre revue de presse en replay. Amis qui vont nous écouter en podcast audio tous les jours et vous êtes des centaines de milliards de millions, eh bien, ça me fait bien plaisir. Et bon lundi et bonne semaine à vous. De quoi on parle ce matin? Je vous fais le petit sommaire en quelques minutes pour que vous ayez l'essentiel de l'actualité. Ceux qui n'ont pas trois heures à nous consacrer. On va parler de Jean-Luc Mélenchon. Hein, c'est l'un des tout premiers candidats officiels à la présidentielle de 2027. Il n'y en a que deux à ce jour. Il y a Retailleau. On en a parlé samedi. Hein, un sur Retailleau. Le deuxième sur, c'est qui? Vous allez me le rappeler. Et le troisième, c'est Jean-Luc Mélenchon. Hein, de nouveau à l'assaut du second tour. Ah, c'est Ruffin? Ah bon, Ruffin? T'es sûr? Non, non, c'est pas Lisnard. C'est Édouard Philippe. C'est Édouard Philippe, t'as raison. Non, les officiels officiels, t'as Retailleau pour LR, t'as Édouard Philippe. Voilà. Ruffin, c'est pas encore la déclaration officielle. Et le troisième, c'est Jean-Luc Mélenchon. Donc, un article dans l'Opinion qui nous donne à peu près les infos, quoi. Dimanche, aux 20h de TF1, le leader des Insoumis devait officialiser sa quatrième candidature à la présidentielle. Ceux qui disent, oui, mais si, mais Hollande, mais Villepin, mais Delphine Bateau. Non, non, c'est les gens qui vraiment ont dit qu'ils y allaient officiellement. Il n'y en a que trois. Mais que c'est pas les couilles, hein, c'est lundi. Donc, 2027, Mélenchon de nouveau à l'assaut du second tour. Dans le monde du question pour un champion, on appelle ça un 4 à la suite. Sa quatrième candidature. Boum! Quand on n'est pas surpris, ça fait bizarre. C'est la une de Libération, là. Le candidat permanent. Comment ça, Ruffin? C'est officiel. Oh putain, c'est pas très sympa pour Ruffin, c'est-à-dire que c'est passé totalement inaperçu. Ah, donc ça en fait 4 officiels alors? Oh le pauvre. Oh putain. Putain, j'ai vu zéro article sur Ruffin candidat à la présidentielle. Oh merde! C'est pas bon. Ah, désolé. Donc, Mélenchon, le candidat permanent, c'est la Lune de Libé. Jean-Luc Mélenchon a annoncé dimanche qu'il serait candidat en 2027 à l'élection présidentielle pour la quatrième fois, c'est donc le 4 à la suite. Une décision logique au vu de ses efforts pour étouffer toute concurrence. Ah, il est candidat à la primaire de la gauche. Bim, je reviens en arrière. Vous aviez tort, j'avais raison. Voilà. Être candidat à la primaire, c'est pas être candidat à la présidentielle. Hé hé! Donc ça fait 3. Ok, let's go. Voilà, et on lira l'édito de Dame Mostafavi sur la quatrième candidature à la présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, ce qui est tout sauf une surprise. En revanche, c'est une surprise si on revient un petit peu en arrière, parce qu'au moins deux reprises, Jean-Luc Mélenchon avait dit, mais moi c'est fini, hein. Moi je ne me présente plus, hein. La dernière c'est la dernière fois. Place aux jeunes, il avait dit. Donc ça, c'est une surprise par rapport, voilà, le fameux faites mieux que moi. Sévino, tu as raison. Donc on va revenir sur ça. Pourquoi il a changé d'avis? Voilà. Lui, il change pas d'avis, mais il devrait. C'est Trump qui a beaucoup de mal en ce moment. Voilà, les supporters français de Trump se font de plus en plus rares, moins en moins, dans ce chat. Voilà, Trump rattrapé par la réalité. Dossier dans Le Monde à 6 mois des élections de mi-mandat. Le président américain paie l'absence de cap clair sur la guerre en Iran. Donc ça, c'est l'article du Monde qui nous dit que, globalement, Trump, il a un peu faux partout en ce moment. Et on fera un petit point sur l'annonce de Washington du retrait partiel des troupes américaines en Allemagne. Décision qui a choqué Outre-Rhin. Alors là, je pense que vous n'avez peut-être jamais entendu parler de cette chaîne. Moi, c'était la première fois dans Le Monde toujours. J'aurais pu ne pas vous en parler, mais j'ai été atterré par ce que j'ai découvert. En Israël, il y a une chaîne Tout Info, une chaîne d'info en continu, qui s'appelle Channel 14, et qui n'est pas une chaîne anecdotique, hein, qui fait de l'audience, qui est accusée de discours génocidaires. La chaîne aux audiences en constante progression a écrit « Le Monde fait la part belle aux propos les plus violents, appelant notamment à l'anéantissement de Gaza ». Ce sont des gens, c'est une chaîne d'infos qui appelle à tuer les Palestiniens. Tous les Palestiniens. Hommes, femmes, enfants, membres du Hamas, pas membres du Hamas. Voilà. Trois ONG israéliennes ont fait un relevé de ces prises de parole et ont déposé un recours devant la Cour suprême. Alors, c'est documenté. Le Monde a fait un gros papier de 2 pages là-dessus. C'est assez hallucinant. Voilà. Dans Le Monde, d'ailleurs, à un moment, l'article compare cette chaîne, Channel 14, à une autre chaîne d'infos en France, en disant, tiens, c'est un petit peu comme... je ne sais plus quelle chaîne d'infos, vous avez peut-être retrouvé, vous, mais... Empire, ils disent. Bah, on lira ce papier, je trouve ça hyper intéressant. Alors, vous avez sûrement entendu parler ces derniers jours de ces polémiques autour de cette free party avec ces jeunes toughers, et cette jeune femme qui saute très très haut, là. Notamment les voisins, les riverains qui étaient inquiets. Alors, entre 17 000 et 40 000 personnes, c'est beaucoup, hein, ont participé cette fin de semaine à une free party sur un terrain militaire près de Bourges, alors qu'un projet de loi prévoit de sanctionner plus sévèrement l'organisation de ces fêtes sauvages. Bande de sauvages. Les amateurs défendent un mode de vie C'est ce que j'ai aimé dans cet article de Lacroix, c'est que Lacroix essaie de comprendre les motivations des participants à ces free parties. Explique la philosophie derrière ça. Voilà. Donc c'est plutôt bien fait. On fera aussi un bilan de la réforme de l'apprentissage. Vous savez, il y a quelques années, il y a eu une réforme initiée par le président Macron de l'apprentissage en France qui a très bien marché. Voilà. Et ça a eu un succès fou en termes de nombre d'apprentis en France, d'entreprises prenant des apprentis. Alors ça fait exploser le nombre d'apprentis, mais ça fait exploser aussi le budget consacré à ça. Et du coup, on est en train de réduire la voilure. Est-ce que c'est bien de réduire la voilure? Pourquoi la voilure a été réduite? Quel bilan on peut tirer de cette réforme de l'apprentissage? Je trouvais que le papier dans Les Échos était assez bien fait sur un sujet sur lequel je vois régulièrement passer des papiers. Mais pas toujours très très clair. Là, je trouve qu'on a un bon résumé de ce qui s'est passé en France autour de l'apprentissage. Et puis, je comptais finir sur cet article, parce que j'étais un peu déçu. Normalement, on attendait aujourd'hui la publication du rapport du rapporteur Charles Alloncle de la commission de l'audiovisuel public. Et puis, j'apprends ce matin que finalement, c'est mardi. Mardi matin, bon. Et donc, il y a plusieurs articles ce matin, il y en a un dans Le Parisien qui s'interroge quelle suite au rapport à l'oncle. Je spoil un peu, mais l'article dit bah, il risque de se passer pas grand-chose. Et puis, il y a une nouvelle info qui est tombée ce matin dans Le Figaro, notamment, enfin dans plein de médias. Je vous montre. Sur une nouvelle plainte qui vise. Comment ça, la pub est placée? Le mystère du syndrome du côlon irritable. Oh, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir avec. Quel est le lien? Quel est le lien? Il n'y a aucun lien. Oh oui, il y a une publicité. Pour ceux qui nous écoutent en audio, pour que vous compreniez, il y a une publicité, page 27 dans Le Parisien, pour un médicament qui traite le syndrome du côlon irritable. Mais ça n'a rien à voir avec Charles Alloncle. Il n'y a pas de lien. Donc voilà. Et donc, je comptais vous parler de ça, sauf que j'ai découvert ce matin en regardant l'actu, en revenant du footing, que y a du nouveau. Voilà. Il y a une nouvelle plainte, la deuxième plainte, si je ne dis pas de bêtises, contre Charles Alloncle. La première, c'était celle de Nagui, pour harcèlement en ligne, je crois, contre X, donc visant Alloncle et toutes les personnes qui ont repris les fake news du rapporteur concernant l'animateur. Et puis, alors, il y a toute une série d'articles ce matin, là, notamment dans le Figaro, par exemple. Alors, cette fois, c'est une plainte contre X, encore une plainte contre X, qui vise le rapporteur, mais aussi Lagardère News, donc le groupe d'infos du groupe Bolloré, qui détient notamment CNews, Europe 1, le Journal du Dimanche, etc. L'association AC Anticorruption accuse le député d'avoir influencé les débats lors de la commission, en posant des questions suggérées par le groupe de presse de Bolloré. Parce qu'il a, je ne sais plus quel média a révélé qu'effectivement le groupe Lagardère News avait envoyé toute une série de questions à certains membres de la commission. Et étrangement, on a retrouvé certaines de ces questions presque mot pour mot dans la commission. Voilà, donc il y a cette association anticorruption a porté plainte, une plainte contre X pour prise illégale d'intérêt et trafic d'influence. Voilà. Donc je vous résume la plainte. En gros, ils se demandent s'il n'y a pas eu un deal en mode, tiens, reprenez nos questions et puis on vous exposera à mort sur nos médias. Hein, personne ne vous connaît, vous n'êtes personne, mais en quelques semaines, il y a moyen qu'on vous fasse connaître, quoi. Voilà. Donc c'est cette plainte. C'est une deuxième plainte contre Monsieur Alon. Voilà pour le sommaire. Il est comment mon sommaire? Il est tout frais, il est tout beau. Hein, il y a de l'actu. Hein. Pourquoi je m'entends? Ah oui, c'était une pub qui s'était ouverte. C'est Le Monde qui avait leaké l'info? Ouais, je crois que t'as raison. Ouais. C'est Le Monde qui avait sorti l'info sur les. Oui, t'as raison. C'est Le Monde qui a sorti l'info sur le fait que le groupe Lagardère News a envoyé des idées de questions à Monsieur Alloncle notamment et à d'autres membres de la commission. Tout à fait, ouais. Lui dit, bah non, c'est normal, tous les députés reçoivent des questions comme ça. Moi, je les ai pas lues, j'ai pas fait attention. Voilà. Bon, je vous lirai tout ça. Comment ça, j'avais 203? Oh, on ne sait pas s'il y aura une troisième plainte. Pourquoi vous dites jamais 203? Il y a deux plaintes, mais ça ne veut pas dire qu'il y aura trois plaintes. Le dicton jamais 203, c'est un dicton. Hein. On ne sait pas. Pourquoi trois plaintes? Qui pourrait porter plainte contre Monsieur Alloncle? On ne sait pas. On sait pas, pourquoi vous dites ça? On sait pas. Moi, ce que je dis, c'est qu'on va attendre la publication du rapport. Hein? Donc demain, on attend la publication du rapport demain, a priori. Voilà. Pas mal, mon petit sommaire, là, du lundi, là. C'est un... Ah! Il y a Super Kevin 75 qui prend la défense de Monsieur à l'oncle. Ah, mais il n'y a qu'un kappa. Ah, putain, j'ai pas vu le kappa. Ah, putain, tu pourrais prendre sa défense premier degré, en vrai. Hein, un kappa. Peut-être qu'il a fait des excuses dans le rapport, qui sait? Bon, on attend, on attend les excuses. Allez, je vous lis un petit peu, c'est mon petit plaisir. On démarre cette revue de presse avec Jean-Luc Mélenchon. On fera un petit coucou à nos amis. Pardon. De YouTube. J'ai une question. Comment tu penses à l'ordre du sommaire le matin? Bah, un petit peu comme quand je faisais le JT. C'est-à-dire je mets les infos que j'estime le plus important en haut, les moins importants en bas. Après, c'est très subjectif. Hein. Selon la lecture de chacun, les valeurs de chacun, les opinions de chacun, vous pouvez totalement bouleverser ça. Il y a peut-être des infos que vous trouvez extrêmement importantes qui n'est pas dans cette revue de presse. Inversement, il y a des infos ici que certains dans le chat vont dire, ah bah moi je trouve pas ça intéressant. C'est l'intérêt de l'information, c'est que c'est très subjectif. Et la hiérarchie, c'est pareil. Voilà, moi je mets dans l'ordre qui m'intéresse du plus au moins, quoi. Partir du moment où je le mets dans la revue de presse, déjà que c'est ça m'intéresse. Comment va la pétition aujourd'hui? On fera un point sur la pétition à la fin de cette revue de presse quand vous serez plein. J'ai de bonnes nouvelles à vous annoncer concernant cette pétition, point d'exclamation, pétition dans le chat qui vise à provoquer, à faire naître une commission justement parlementaire sur le phénomène des féminicides en France. Voilà, on est parti quand on l'a découverte la semaine dernière, cette pétition, on était à 112 signatures. On a passé les 7000. Grâce à votre mobilisation, on en parlera à la fin de ce stream. On est à 7233, me dit même Rex. Voilà. 112 signatures la semaine dernière. Plus de 7200. Et c'est pas terminé, on va se mobiliser tous les jours. C'est un combat qu'on va mener ici. Merci Kazouille. Merci Renifleur de Paix. Merci Xielo. Merci Onim Nokio. Merci Nausicaa. Merci Acrocaser. Merci Lenia. Merci Juju. C'est incroyable. Merci Sam, Yo Sam, non, merci, bah, merci vous, hein, moi j'ai rien fait, c'est vous ça. Merci Kazouille, merci encore Kazouille. Hein. Go, on y va? Mais ma soeur et mes parents ont signé hier soir, bravo Charou. Je l'ai mis sur mon Discord, la pétition, bravo Soleas. On a déjà parlé du clivage sur la politique économique entre Jordan Bardella et Marine Le Pen. Ouais, samedi, je crois. Ou jeudi. Je crois que c'était samedi, dans la revue de presse. Replay. Exactement. Allez, c'est parti. On va dire bonjour à nos amis de YouTube. Amis de YouTube, bonjour. J'espère que vous allez bien ce début de semaine. On est lundi, on est dans la matinée Étienne, dans la revue de presse sur Twitch. Et vous avez le sommaire ici de cette revue de presse qui va durer 3 heures. Mais parfois, on vous met quelques infos en avant. Et on s'est dit avec les amis de Twitch qu'on allait vous parler de Jean-Luc Mélenchon parce que c'est tombé hier soir dimanche. Hein. C'est l'un des premiers candidats officiels déclarés hors primaire, hors tout ça, sûr d'y aller s'il a les signatures, quoi qu'il arrive, à la présidentielle. C'est Jean-Luc Mélenchon. C'est sa quatrième candidature. Consécutif, ce qu'on appelle un 4 à la suite. Alors, ce n'est pas une surprise, bien sûr. Ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas une surprise par rapport à l'actualité récente. C'est une surprise par rapport aux propos passés de Jean-Luc Mélenchon qui avait déclaré clairement il y a quelques temps, notamment après sa dernière présidentielle, que c'était la dernière, qu'il fallait laisser la place aux jeunes. Bah, il a changé d'avis. Il a changé d'avis. Alors, je vous ai mis deux articles pour en parler. D'abord, un article général qui vous donne les infos. Voilà. Dans l'opinion, journal l'opinion, et vous voyez que Libération consacre sa une également à cette candidature, le candidat permanent. Hein, on lira l'édito de Hamda Mostafavi dans Libération. D'abord l'article de l'opinion, Donc c'était hier soir aux 20h de TF1. Voici l'info. Le leader des Insoumis a officialisé sa quatrième candidature à la présidentielle. Mélenchon, à nouveau candidat au second tour, dimanche 3 mai, une petite centaine de cadres de la France Insoumise, des députés, des eurodéputés et des maires, se sont réunis pour déterminer le nom de leur candidat à l'élection présidentielle selon la méthode dite du consensus. Voilà. Alors ça veut dire qu'on verra ça en détail, mais c'est pas les militants qui votent. C'est les cadres du parti. Et c'est pas tellement un vote, si je comprends bien. Enfin, on va voir ça dans le détail, c'est consensus. Voilà. On va voir ça dans le détail. Incroyable mais vrai, l'évidence s'est imposée avec une telle rapidité que Jean-Luc Mélenchon devrait officialiser sa candidature le soir même aux 20h TF1. Voilà. Dans la journée, les cadres LFI ont dit « bon, c'est Jean-Luc », et le soir, il dit « eh ben, c'est moi voilà. ». Qu'il est curieux, écrit Antoine Oberdoff dans l'Opinion, de parler d'officialisation tant il n'a jamais été sérieusement question que Jean-Luc Mélenchon passe la main. Enfin si, il y a quelques années, mais plus maintenant. Bali Bagayoko l'a bien compris, frappé d'une popularité soudaine après les attaques racistes dont il a été la cible, le maire de Saint-Denis a su esquiver le baiser de la mort qui faisait de lui un successeur potentiel. Ah, c'est intéressant ça. Certains ont pensé que M. Bagayoko aurait pu être le candidat de LFI à la présidentielle. Ah, ça aurait été intéressant. Je créerai les conditions pour qu'en 2027, a-t-il pourtant déclaré le maire de Seine-Saint-Denis, pour qu'en 2027, Jean-Luc Mélenchon, qui sera notre candidat, puisse fédérer le plus largement possible. Avait-il juré début avril, mettant ainsi fin à un faux suspense qui n'avait que trop duré à LFI. Je ne savais pas que M. Bagayoko avait été considéré par certains chez LFI comme un éventuel candidat pour 2027. Les étoiles montantes de la Nouvelle-France vont donc devoir attendre avant de mettre fin à l'ère du porte-parole, n'en déplaise à Rima Hassan. Et de 4 donc. C'est un 4 à la suite. À question pour un champion, on peut pas faire plus. Après, en politique, on peut faire beaucoup plus. On peut faire 5, 5 à la suite, 6 à la suite, 7 à la suite. Et de 4, Jean-Luc Mélenchon s'apprête à donner à 74 ans le coup d'envoi à sa quatrième candidature à la présidentielle. En amont du 20h de TF1, c'est toute l'armada insoumise qui s'est mise en mouvement au service de son leader naturel et incontesté. Dimanche matin, donc comment ça s'est passé cette histoire? Une petite centaine de fidèles insoumis, parlementaires nationaux et européens, et des maires se sont retrouvés autour de Jean-Luc Mélenchon pour entériner une décision qui, semble-t-il, aurait déjà été prise avant, quoi. La preuve, la rumeur d'une interview sur TF1 circulait depuis 48 heures, mais soucieux de soigner les apparences, les insoumis ont suivi leur procédure d'investiture dite populaire. D'abord une validation de la candidature par un comité d'élus et de cadres, puis dans la foulée, une ratification par 150 000 citoyens, une investiture pour la forme. D'accord. Donc normalement, il y a une ratification par 150 000 citoyens qui devraient suivre cette désignation. Enfin, a priori, c'est une formalité. Alors, c'est une procédure qui pourrait provoquer des débats, puisque effectivement, ce ne sont pas les militants LFI qui décident, qui votent. Le vote n'a jamais été l'alpha et l'oméga de la démocratie, avait déclaré Manuel Bompard, tout juste promis au poste de coordinateur de LFI en décembre 2022. Et de fait, la consultation d'instances internes, que Jean-Luc Mélenchon assimile à des bavardages inutiles, nuit à l'efficacité d'une stratégie. Donc, consultation des instances internes, par exemple des militants, bon, a priori, d'après l'opinion, Jean-Luc Mélenchon en aurait parlé comme des bavardages inutiles. Plus de 30 ans passés dans la vieille maison lui ont appris, alors la vieille maison c'est le PS, pour ceux qui n'ont pas la ref, puisque Jean-Luc Mélenchon est un ancien socialiste, plus de 30 ans passés dans la vieille maison lui ont appris que les synthèses produisent de tout, sauf de la dynamique électorale. Ce proche d'Olivier Faure avait vu juste, en craignant de se retrouver une fois de plus comme des lapins pris dans les phares, à devoir condamner les polémiques de Mélenchon, d'ici aux universités d'été du PS à Blois fin août prochain, rien ne devrait bouger sur le front de la social-démocratie partagée entre Raphaël Glucksmann et François Hollande. Quel sera le candidat socialiste, quel sera le candidat de la social-démocratie, ça, on n'en a aucune idée à l'heure où nous parlons. C'est vrai que mardi, demain, rappelle le journal, il y aura un rassemblement, un meeting organisé par les partisans de la primaire à gauche. Mais bon, c'est le truc a un coup dans l'aile. Voilà. Et donc, avec un processus miné par les contradictions de cette gauche qui se définit pour l'essentiel négativement comme une gauche non mélenchoniste. Et c'est donc le moment qu'a choisi la tortue sagace pour passer la vitesse supérieure. Je ne savais pas que Jean-Luc Mélenchon était surnommé par certains Tortue Sagace. Je ne sais pas si vous le saviez. Pourquoi Tortue Sagace d'ailleurs? Côté sage un peu? Vieux sage? Je sais pas. Vous avez un rêve, vous? Tortue Géniale, je connais. Tortue Sagace, je l'ai pas. Parce qu'il râle beaucoup? Ah, Sagace! Vous croyez qu'il y a un jeu de mots? La tortue comme le logo de LFI? Mais le surnom, non? Ok. Parce qu'il s'agace souvent, vous croyez? Parce qu'il monte lentement dans les intentions de vote? Parce que c'est une tortue sage qui progresse en permanence? Ok. Non, parce qu'il commence sa campagne et qu'il avance doucement, mais il monte tout le temps, d'accord, ok. Parce qu'il va lentement, mais sûrement. Ok, d'accord. Ok. Ce 1er mai, en tout cas, a donné un avant-goût de ce que serait la campagne à venir, ça nous intéresse. Juché sur un camion à l'effigie de son mouvement, place de la République à Paris, Jean-Luc Mélenchon a pris un malin plaisir à narguer ceux qui, comme Olivier Faure au PS et au Marine Tondelier chez les écologistes, regrettent sa stratégie de conflictualité permanente. Voilà. Alors pourquoi? C'est la question que je me pose ce matin. Ah, Defcator me dit c'est lui qui s'était ainsi auto-surnommé en 2022. D'accord. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon a-t-il changé d'avis? C'est la question qu'on se pose ce matin. Parce que là, évidemment, quand on dit Mélenchon candidat à une quatrième présidentielle, tout le monde me dit dans le chat, bah oui, quelle surprise. Sauf que il avait dit l'inverse. Il y a quelques années, il avait dit, mais moi, c'est ma dernière campagne, je n'irai plus. Donc il a changé d'avis. Pourquoi? Il fallait mal connaître l'ex-sénateur socialiste pour entendre dans le « Faites mieux !» lancé le 10 avril 2022 sur la scène du Cirque d'hiver, un adieu à la vie politique. Ce n'est pas la première fois que Jean-Luc Mélenchon se pose en Cincinnatus, ce modèle de vertu qui sauva Rome par deux fois avant de retourner à une vie simple de paysan. Edgar 52 me dit « Il n'a jamais dit ça !» Mélenchon, il n'a jamais dit que ce serait sa dernière candidature. Me dit qui? Edgar 52. Ok. Voilà. Deux points ouvrez les guillemets. Il est évident que c'est ma dernière candidature. C'est même un argument en ma faveur. Je suis le seul à ne pas organiser une carrière. Déclaration au Dauphiné libéré le 26 août 2021. Sacré Edgar. Hein? Merci pour les infos. Pour quelqu'un qui aspire à être remplacé, le tribun insoumis reste un retraité actif. Sa décision de ne pas se présenter aux législatives de 2022 l'a éloigné du palais Bourbon, pas du circuit présidentiel à une époque. C'est vrai qu'après on s'est demandé mais pourquoi il se présente pas aux législatives, c'est super bizarre. C'était hyper étrange. Mais ça l'a pas empêché de rester dans le circuit politique. Merci le Barry. Le Barf, pardon, PNJ. Merci pour le soutien. Ranger le blouson de cuir noir des mauvais jours, revoilà le costume d'instituteur républicain et la cravate rouge vive des grands rendez-vous. La métamorphose fera-t-elle illusion auprès des électeurs de gauche? L'expérience récente, se demande l'opinion, qui est un journal qui n'est pas de gauche, hein, qui est un journal libéral très proche des entreprises. La métamorphose fera-t-elle illusion auprès des électeurs de gauche? L'expérience récente a appris aux commentateurs à ne jamais prononcer de parole définitive pour Jean-Luc Mélenchon. En octobre 2021, un sondage IFOP le créditait de 7% à 8% des intentions de vote. Aujourd'hui, le même institut le situe entre 10 et 11% au coude à coude avec Raphaël Glucksmann. Donc si je compare avec 2021, où il était parti très bas, était arrivé assez haut, hein, vous vous rappelez? Pas très loin de pouvoir se qualifier pour le deuxième tour. Quoi, il y avait 400 000 voix, c'est pas par rapport à Marine Le Pen, c'est ça? Ben là, il part de bas également, mais plus haut que 2021. 7-8% en 2021, 10-11% aujourd'hui. Ce qui fait dire à l'eurodéputé Manon Aubry que Jean-Luc Mélenchon n'a jamais été aussi bien placé pour l'emporter, hein, puisque là, si on regarde les sondages aujourd'hui, certaines enquêtes d'opinion, à l'instant T, le deuxième tour qui nous serait promis aujourd'hui, ce qui ne veut rien dire, un an de la présidentielle, ce qui est donc conditionnel, aujourd'hui en 2027, c'est Mélenchon RN. Le Pen ou Bardella, selon ce qui va se passer le 7 juillet avec la décision de justice concernant Marine Le Pen. Donc, Manon Aubry dit « Mélenchon n'a jamais été aussi bien placé pour l'emporter. Mieux vaut partir de 22% que de 1,7% quand on prétend réunir plus de 50% des voix. » Bon, sauf que c'est pas 22%, c'est 10, 11%. Non, bon, c'est pas grave. Mais d'ailleurs, l'opinion en parle après. en évacuant l'hypothèse d'un front anti-LFI qui précipiterait au contraire l'arrivée au pouvoir du RN. Les opposants à Mélenchon disent ça, disent mais c'est le meilleur candidat possible pour que le RN arrive au pouvoir. C'est aussi ce que disent les sondages un petit peu. Les insoumis font parfois comme si tout s'était arrêté le 10 avril 2022, revenons sur ces 22%, comme si le compteur électoral était resté bloqué à 22% ce jour-là, 7,7 millions d'électeurs, effectivement, s'étaient saisis du bulletin de vote Mélenchon pour envoyer la gauche au second tour. Peu importe qu'ils aient voté Yannick Jadot aux européennes de 2019 ou Anne Hidalgo municipale de 2020, la logique du vote utile commandait de plébisciter l'insoumis. À 420 000 voix près, c'est ce que je disais, le leader insoumis doublait Marine Le Pen et gagnait le droit de jouer son va-tout face à Emmanuel Macron. Sauf qu'entre-temps, Jean-Luc Mélenchon a décroché un nouveau titre. Donc voilà, c'est intéressant. L'article de l'Opinion, encore une fois, c'est pas un journal de gauche, mais est intéressant parce que l'article de l'Opinion donne la parole à ceux qui, chez LFI, pensent que Mélenchon a toutes ses chances, qu'il n'y aura pas de front anti-LFI, qui part encore plus haut que la dernière fois et qui peut surprendre son monde. Et en même temps, l'Opinion nous dit autre chose. Mélenchon, entre-temps, depuis 2022, a décroché un nouveau titre, celui d'homme politique le plus détesté de France. C'est aussi un petit peu ce que disent les enquêtes. À force de clins d'œil antisémites et d'outrances verbales depuis l'attaque du 7 octobre. Ses rivaux à gauche se chargeront de rappeler qu'il est le pire candidat du second tour pour battre Marine Le Pen ou Jordan Bardella, hein, qu'il est en passe de devenir le roi du cimetière, comme le répète par exemple la patronne des Verts, Marine Tondelier. Ce préchi-prêcha antifasciste n'atteint pas le patriarche insoumis, écrit l'Opinion. Chaque fois qu'un nom s'ajoute à la liste des prétendants à l'Élysée, le septuagénaire voit le seuil de qualification au second tour s'abaisser et son espoir grandir. Lui préfère convoquer la magie du second tour. Cet effet inexplicable du barrage républicain qui blanchirait n'importe quel monstre pourvu qu'il soit opposé à l'extrême droite. Et ainsi, les petites cervelles social-démocrates, a priori citation de Jean-Luc Mélenchon, passeraient outre la répulsion et parfois la peur que leur inspire Jean-Luc Mélenchon une dernière fois. Bon. Voilà pour l'analyse de l'opinion qui n'est qu'une analyse, qui est juste, qui n'est pas juste. Ça, si vous faites votre avis comme vous voulez. Je vous lis et on enchaîne avec un édito dans Libé sur le même sujet. Pourquoi 11-12% de sondeurs qui ont toujours eu tort sur le score de Mélenchon seraient plus crédibles comme base de départ plutôt qu'un résultat concret de 22%? Le 11-12%, c'est un an avant la présidentielle. Bon, Bozo Bec, le 22%, c'est le score du premier tour. On ne va pas comparer un sondage un an avant la présidentielle avec un score de premier tour. Ce qui serait intéressant, c'est de voir un sondage 15 jours avant la présidentielle, par exemple. Et c'est ça ta caution de gauche, Babel Stitch? Je sais pas, tu veux quoi? Tu veux un quotidien LFI? Il y a Babel Stitch qui est en colère qui me dit « Alors c'est ça ta caution de gauche, Samuel Etienne? Hein? C'est ça ta caution de gauche, c'est Libé? Bon, je sais pas, cite-moi un quotidien LFI. Ça va être compliqué, hein. T'en as un cité? T'en as un cité? N'hésite pas, hein, ça m'intéresse. Un quotidien, j'ai dit. Hein. L'humanité. Ouais, ils peuvent pas blairer Mélenchon, c'est les communistes. Racontez pas des bêtises. Bon, pas de réponse, je continue alors. Donc, édito de Libé. Parti radical, écrit Hamdam Mostafavi. Un édito, c'est un article un peu particulier où le journaliste donne son avis. Qu'est-ce qu'il en pense ? Jean-Luc Mélenchon n'est pas du genre à renoncer. C'est vrai. À la sortie de la dernière élection présidentielle, il appelait ses disciples à faire mieux pour se poser en alternative crédible. Mais finalement, bon, ils n'ont pas fait mieux, en tout cas estime Mélenchon, puisque l'alternative, c'est lui, l'homme providentiel. Ce n'est qu'au sommet qu'il rêve de clore le chemin politique qu'il a amené il y a quelques années, moi je l'ai connu comme sénateur socialiste, notamment, qui l'a amené à s'extraire des rangs du PS pour créer son propre parti, affirmant toujours plus sa radicalité et son refus du consensus mou. Insoumis, il l'est et le restera. Insoumis à 74 ans, au temps qui passe et à une certaine lassitude face à cette quatrième candidature, insoumis aux voix divergentes dans son camp, qui a vu partir les proches les plus susceptibles de succéder au patriarche, insoumis aux critiques, notamment celles sur les relents antisémites de certains de ses propos. Sa stratégie fonctionne, du moins en est-il convaincu. Les dernières élections municipales lui ont montré que les candidats LFI pouvaient l'emporter. C'est vrai qu'il y a eu des choses intéressantes aux municipales pour certains candidats LFI. Réaliser de très bons scores, en particulier dans les villes historiquement ancrées à gauche. Elles ont parfois, à l'inverse, montré qu'il faisait pour une partie de l'électorat de gauche figure d'épouvantail. Hein, et aussi des candidats aux municipales de gauche qui n'ont pas voulu de l'union, vous savez, de la main tendue par d'autres candidats LFI. Jean-Luc Mélenchon sait que sa stratégie de radicalisation l'éloigne des électeurs centristes. Il poursuit néanmoins son pari, ramener aux urnes les électeurs désengagés, notamment dans les banlieues, les quartiers populaires. Il persiste car rien ne semble à ses yeux l'empêcher dans la dernière ligne droite de se proposer en sauveur de la gauche. Projetant que les électeurs pourraient se rallier à lui, attirés par la perspective d'un accès au second tour de la présidentielle. Le reste de la gauche, particulièrement fragmenté, sert son scénario. J'ouvre la parenthèse, Libé a raison. Au vu de l'état du reste de la gauche aujourd'hui, tout pousse Mélenchon à se présenter, quoi. Vu le nombre de candidatures annoncées à gauche, vu l'incapacité de la gauche non mélenchoniste, pour l'appeler comme ça, éventuellement de s'unir autour d'un candidat, il a un boulevard pour Mélenchon être le candidat de la gauche le mieux placé au premier tour. Est-ce que ce sera suffisant pour se qualifier au second? Ça, c'est autre chose. Le reste de la gauche, particulièrement fragmentée, sert son scénario, je suis d'accord avec ça. Après 3 échecs, Mélenchon vise donc le Graal, atteindre le second tour, et cette fois l'emporter, Jean-Luc Mélenchon, président de la République. Quitte aussi à ce que ses positions clivantes ne garantissent pas la formation d'un front républicain en sa faveur et contre l'extrême droite. Avant le second tour, il y a le premier. Dans la France de 2027, pas de 2026, de 2027, cette phrase elle est importante. Là, on analyse, bien sûr qu'on va parler beaucoup de la présidentielle pendant un an parce qu'on est un pays qui se passionne pour la politique, et c'est tant mieux en vrai. Mais évidemment que l'état des forces aujourd'hui n'a rien à voir avec celui qu'il sera dans un an. D'où cette phrase. Dans la France de 2027, sa stratégie de radicalité apparaîtra telle comme le bon pari. En politique, on fait des paris. Ce dernier chapitre-là reste à écrire. Il est intéressant cet édito d'Amdam Mostafavi, parce qu'il reconnaît qu'il peut se passer encore plein de choses. Merci Captain Oui Oui, merci Educastar, merci Fumanzu, merci Yelni, merci GBLC19, merci Sweatcha, merci le Barge PNJ, c'est incroyable, merci pour les soutiens. Amis de YouTube, je ne peux pas lire vos messages parce qu'on est en direct sur Twitch, je vais lire ceux dans le chat sur Mélenchon pour augmenter un petit peu l'information qu'on vient d'évoquer avec d'autres infos, d'autres idées. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, des petits likes sur cet article si vous l'avez aimé, et on vous mettra un deuxième extrait, amis de YouTube également, concernant la revue de presse, concernant une info de fin de revue de presse là, sur M. Charles Alloncle, le rapporteur de la commission de l'Assemblée sur le duel public, qui vient d'être visé par une nouvelle plainte. Alors, qu'est-ce que ça dit le chat? Je vous lis. Jamais de la vie, il y aura un candidat unique à un an de l'élection présidentielle. Autant de candidatures à ce stade, c'est normal. Ah oui, foie jaune, je vois ce que tu veux dire. Après, si tu penses que la gauche social-démocrate non mélenchoniste va réussir à s'entendre autour d'un candidat unique, je trouve ça formidable. Moi, je trouve que c'est un pronostic un peu risqué quand même. Mais pourquoi pas? C'est pareil à droite, il ne semble pas y avoir de candidat unique, c'est très étrange comme point de vue pour la gauche finalement. Ah non, mais fusion, t'inquiète, on n'oublie pas la droite non plus. Hein. Alors, pour la droite LR et ce qu'on appelle le bloc central, macroniste droite, même constat, hein, mais sauf que là aujourd'hui on parle de la gauche. Mais si tu es un habitué de la revue de presse, que manifestement tu n'es pas, tu sais que la division à droite et du bloc central, on en a déjà parlé longuement, pas plus tard que samedi et pas plus tard que jeudi. Ah, mais bon, tu ne devais pas être avec nous ce jour-là. Je vous lis. Matma me dit, personnellement, ça me saoule de mettre les personnes autant en avis, je pense que tu veux dire en avant, plutôt que le parti et les programmes. Moi, j'attends les mesures. Pas de belles photos, interviews. Tu as bien raison, Matma. C'est l'un des soucis de notre système politique et de la présidentialisation, hein, et de la figure de l'homme ou de la femme providentielle, hein, dans notre imaginaire politique. Je suis 2000% d'accord avec toi. Voilà. Alors, ce que j'aime dans ce chat, c'est la diversité. Nightwolf, pire candidat possible pour LFI. Et Sibiusity qui répond, meilleur candidat de la gauche. In my opinion. Le problème de la gauche aujourd'hui, estime Absolute Jazz, c'est que le candidat en position de force est le plus repoussant pour les gens d'autre bord, et pour un second tour, c'est pas fou. Allez, je lis encore deux messages. Ne penses-tu qu'il devrait y avoir une limite d'âge? Combien de candidats auront presque 80 ans s'ils venaient à être élus à la fin de leur mandat? Non, tonton Charlet, personnellement, moi-même qui suis très âgé, non, je suis pas pour une limite d'âge. Non. Tu sais, il y a des jeunes gens qui veulent se présenter à la présidentielle, il y en a des très très jeunes même qui rêvent de pouvoir se présenter. Je pense à un très bien placé dans les sondages qui est très très jeune, et je ne crois pas que son âge garantisse la qualité du projet. Ou alors il faudrait aussi interdire les plus jeunes de se présenter, tu vois, si je puis me permettre. Je ne parle de personne en particulier, bien sûr, hein.
Où est-ce qu'il trouve toute cette énergie?
La jeunesse ne garantit rien. L'âge, il a bon dos, l'âge, hein. Voilà. Amis de YouTube, en tout cas, merci de nous avoir suivis. Voilà. N'hésitez pas à venir aussi nous voir le matin sur Twitch en direct. C'est marrant aussi, comme ça on peut se parler et se bagarrer, j'adore, en direct. Mais merci de nous suivre également sur YouTube. Et je vous mettrai un deuxième extrait tout à l'heure à propos de Charles Alloncle, deuxième extrait de la revue de presse. Amis Twitch, on enchaîne? On enchaîne? On enchaîne avec quoi? On enchaîne avec Trump? Ah, Trump. Hein? On n'est jamais déçu. À chaque jour, ça dinguerie. Oh, tiens. On a une petite musique pour ça. Où est-ce qu'elle est? Alors, c'est un gros papier dans la dernière édition du Monde. Trump rattrapé par la réalité. Il n'y a pas si longtemps, dans ce chat, on avait beaucoup de... Ah, c'est un comme ça qu'il nous faudrait pour la France. Ah, il nous faudrait un Trump. Ah, c'est un comme ça qu'il nous faudrait. On en a moins, dans le chat, moins qu'avant, voire plus, je sais pas où ils sont passés, ailleurs. On avait aussi des hommes et des femmes politiques en France qui disaient ça, qui se félicitaient de l'élection de Trump pour son deuxième mandat. Moins, eux aussi, ils ont changé d'avis. Ils ont changé d'avis. Voilà, donc, pourquoi? Bah, notamment pour tout ce qui est évoqué dans cet article, à 6 mois des élections de mi-mandat, de midterms, le président américain paie l'absence de cap clair sur la guerre en Iran, puisque je dis, il y a de moins en moins de Français trumpistes, mais il y a aussi de moins en moins Américains trumpistes. La diversion est familière, la tentative d'attentat lors du gala de la presse à Washington le 25 avril a provoqué à la Maison-Blanche une réponse en deux temps. Un appel cosmétique à la réconciliation nationale de Trump, aussi vite suivi d'attaques outrancières contre l'opposition et la presse. Par exemple, la porte-parole de la Maison-Blanche a déclaré: cette violence politique découle de la diabolisation systémique et de celle de ses supporters par les commentateurs, par les élus du Parti démocrate et même certains dans les médias. Si on tire sur Trump ou si on veut tirer sur Trump, c'est la faute des démocrates, c'est la faute des médias. Son obsession à construire une somptueuse salle de bal à la Maison-Blanche pour 400 millions de dollars a été renforcée par l'attaque dans l'hôtel Hilton. Elle accentue son décalage avec l'opinion publique. Sa façon de parler de la guerre en Iran en témoigne aussi. Combien de temps les Américains doivent-ils s'attendre à ce que le conflit se poursuive? À ce jour, on n'a toujours pas une idée de quand la guerre au Moyen-Orient va s'arrêter. Un journaliste posait cette question à Trump le 23 avril. Combien de temps ça va durer? Le milliardaire s'est agité dans son siège. « Vous êtes une telle honte !» a répondu le président au journaliste. « Vous savez ce que je viens de dire ?» Bah non, pas trop. On ne sait jamais trop ce qu'il raconte. Ça, il change d'avis comme de chemise. Hein. Le Vietnam, ça a duré combien de temps le Vietnam? Alors là, personne n'a compris. C'est un des trucs les plus repoussoirs dans l'histoire moderne des États-Unis, la catastrophe du Vietnam pour les États-Unis, qui a vu un bon nombre de GIs tomber au combat là-bas, pour un résultat que vous connaissez. Donc c'est le pire exemple possible, et il l'a utilisé. Alors les gens se sont dit, mais il est fou, pourquoi il parle du Vietnam ? Choix étonnant, écrit Le Monde, pour nier toute errance stratégique de la Maison Blanche et relativiser la crise énergétique mondiale, Trump invoque le plus fort repoussoir possible, vieux de plus d'un demi-siècle. C'est le pire exemple historique qu'il pouvait choisir, mais il a choisi celui-ci. Sur le Pentagone, la guerre contre l'Iran aurait déjà coûté 25 milliards de dollars, estimation minorée selon les élus démocrates. Le président américain fait mine de balayer tout ça. Comme s'il s'agissait de désagréments passagers dans sa marche triomphale. Un petit détour, dit-il à propos de la guerre au Moyen-Orient. D'ailleurs, le 1er mai, il a déclaré les hostilités avec l'Iran terminées. Alors, vous ne le saviez pas, mais la guerre est terminée. Enfin, personne ne le sait, mais Trump a déclaré le 1er mai que les hostilités étaient terminées. Alors, vous allez me dire, mais non, mais la guerre se poursuit. Bah oui. Mais et alors? Vous ne pourriez pas un petit peu faire confiance au président américain? C'est terminé. Fin de l'article, d'ailleurs, on va passer à autre chose. Non, c'est pas vrai, c'est encore une petite bêtise. Il l'a dit dans une lettre adressée au Congrès. Ah, malinx le lynx. Afin de contourner l'obligation d'autorisation du pouvoir législatif au-delà de 60 jours d'engagement des troupes américaines. La Constitution dit que normalement, le président doit avoir l'aval du Congrès pour passer les 60 jours d'engagement des troupes américaines dans un conflit en disant au Congrès, c'est terminé, du coup, il n'a plus besoin d'autorisation. Malinx, le lynx. Pourtant, les murs se resserrent autour de Trump, estime Le Monde. Pendant la première année de son mandat, rien ne semblait résister à l'avancée autoritaire du milliardaire. C'est vrai qu'il y a une dynamique au début de son deuxième mandat qui était là, hein. Qu'on lisait dans ce chat d'ailleurs. Hein. Ceux qui nous disaient que c'était un homme comme ça, avec de la poigne comme ça, qu'il nous fallait pour un pays comme la France. Dieu nous en préserve. Pendant la première année de son mandat, rien ne semblait résister à l'avancée autoritaire du milliardaire en dehors de quelques juges fédéraux, républicains domestiqués, démocrates éparpillés, presse sonnée, institutions brutalisées. La Maison-Blanche remodelait le commerce international avec sa politique de tarifs douaniers, vous vous rappelez, la guerre commerciale, lançait des frappes contre 3 sites nucléaires iraniens en juin 2025 avec Israël. Seule l'affaire Epstein semblait hanter l'Amérique. Était-ce l'Amérique d'abord, comme le promettait le slogan de campagne, l'Amérique seule, surtout, se mettant à dos ses alliés, ses voisins, ivre de sa puissance militaire, allant jusqu'à capturer Nicolas Maduro, vous rappelez, le président vénézuélien, avec le recul. Ce 3 janvier, la capture de Maduro fut le pic, peut-être, de la première phase du deuxième mandat du président Trump. Depuis le premier tiers de 2026, a renversé cette dynamique. Hein. Depuis janvier, rien ne va plus. Les États-Unis sont enquistés dans la guerre en Iran. Sa suspension actuelle ne résout en rien le chaos provoqué par 40 jours de bombardement, notamment le blocage du détroit d'Ormuz. Waouh ! Vous voyez la figure de l'homme providentiel. On y est toujours. Hein. On est biberonné à ça en France. Mais je dis biberonné d'ailleurs. Je le dis à dessein parce que c'est... Pardon, j'estime... Je vais dire un mot qui est un peu trop agressif, je le reprends. Il y a Chris qui dit, non mais c'est vrai, il nous faudrait quelqu'un avec de la poigne comme ça en France. Mais il faudrait en plus qu'il ait plus de sang de cuit. Voilà, la figure de l'homme ou de la femme providentielle. C'est un vieux classique. Ça n'a aucun sens dans une démocratie mature, mais voilà, on est encore sur ce genre de schéma. Donc la guerre, Depuis l'origine, cette guerre a semblé mal pensée et peu justifiée aux yeux de qui? D'une majorité d'Américains. Mais c'est l'augmentation spectaculaire du prix de l'essence. Les Américains, ils n'aiment pas trop que l'essence grimpe. Près de 40% en 2 mois qui provoque la colère, selon un sondage récent. L'approbation de Trump est tombée à 23% chez les électeurs dits indépendants et très courtisés. Hein, ce sont des électeurs qui font basculer les majorités. Elle n'est plus que de 68% parmi les républicains. Autre indice, selon une étude pour Fox News, les démocrates arrivent en tête sur les questions économiques. C'est une première depuis 17 ans. C'est Trump qui l'a fait. En février, la Cour suprême a renversé un pilier de la politique économique de Trump en annulant sa guerre commerciale, hein, en annulant les tarifs douaniers réciproques mondiaux. Elle a considéré que le président avait outrepassé ses prérogatives, qu'il aurait dû demander l'aval du Congrès. Et l'administration a dû mettre, ça c'est fort ça, a dû mettre en place un portail où les entreprises réclament le remboursement des tarifs acquittés. Le montant pourrait atteindre 175 milliards de dollars. D'entreprises qui disent, faut nous rembourser les taxes là maintenant. Mauvaise nouvelle de plus pour la dette des États-Unis, 39 000 milliards de dollars.
Combien ?
La dette des États-Unis, 39 000 milliards de dollars. C'est un pays qui vit à crédit de l'économie mondiale depuis toujours. C'est quoi la dette française ? On n'arrête pas de se, lamenter de notre dette. Hein ? C'est combien la dette française ? Combien ? 3 000 milliards. Putain, on est à 3 000 milliards déjà ? Non. On est à combien, nous ? Ah ouais, on est à 3 000 milliards, nous. Dans ma jeunesse, j'ai connu 1 000 milliards, moi, la dette. Voilà, on est à 3 000 maintenant. On est à 3 232 milliards. Ouais. Ouais. Là, eux, ils sont à 39 000 milliards. Attendez, ça fait combien, ça ? 39... divisé par 3,2. Hein ? Non, c'est pas en pourcent. Non, c'est en milliards. En pourcent de PIB, c'est plus en force. Non, on est à 3000, on est en 3200 milliards. Non. C'est déjà, c'est gigantesque, les gars. Les mecs, ils disent que c'est pas assez. C'est gigantesque, les gars. Voilà, c'est 12 fois. Ils ont 12 fois notre dette. Attention, leur population, c'est combien ? Attends. Population... Ça se trouve, ils sont 12 fois plus nombreux que nous. Mais je crois pas. Alors, ils sont combien ? Sugar dit 700 millions. Oh, c'est à cause de l'inflation que tu dis ça. Ils sont 348 millions. Dis donc, je sais qu'il y a eu de l'inflation aux États-Unis, mais à ce point-là. Non, ils sont 348 millions. À peu près. 300, 341, 348 par là. Et la France ? On a combien, nous ? On est à 70 à peu près, 69. Voilà. Donc, c'est à peu près 5 fois. Voilà ça. Donc, ils ont une dette 13 fois plus grosse que la nôtre, 12 à 13 fois, et ils sont 5 fois plus peuplés. C'est un pays qui vit à crédit depuis toujours. 39 000 milliards de dollars. Je fais une parenthèse. Quand le dollar, parce que ça va arriver, ça, un jour, et on va peut-être le vivre, nous, quand le dollar va perdre son statut, et ça va arriver, et peut-être plus vite qu'on le croit, de monnaie d'échange mondiale, hein, quand les pays, les autres pays riches du monde entier vont vendre massivement la dette américaine, hein, craignant de, estimant que ce placement est risqué, c'est ce pays qui vit à crédit va s'écrouler. Voilà. Mais on le vivra peut-être, ça. On le vivra peut-être, à suivre. L'enquête judiciaire, je poursuis avec M. Trump, parce qu'il n'est pas le seul à avoir creusé cette dette, hein, bien sûr. L'enquête judiciaire visant le patron de la Fed, la réserve fédérale Jérôme Powell, a dû être abandonnée pour permettre la confirmation de son successeur, Kevin Marsh, au Congrès. Donald Trump a pris Jérôme Powell pour cible en raison de son peu d'entrain à baisser les taux d'intérêt. Alors, il y a eu l'ICE aussi, la police anti-immigration. En janvier, la mort de 2 civils à Minneapolis, Minnesota, tués par des agents fédéraux engagés dans la traque des migrants illégaux, a provoqué une onde de choc. On évoque tout ce qui s'est passé depuis janvier aux États-Unis. Alors que le président pouvait s'enorgueillir d'avoir rendu la frontière avec le Mexique hermétique, sa propre crédibilité sur cette question migratoire était souvent soudain remise en cause par la brutalité des agents de l'ICE et des autres organes du département de la sécurité intérieure. Au grand désespoir des nationalistes de la base MAGA, depuis, la campagne d'expulsion massive des étrangers en situation irrégulière aux États-Unis a été ralentie. Tout le monde dit que si j'étais sur le bulletin aux élections de mi-mandat, on gagnerait haut la main, assure pourtant Trump, hein, qui est toujours sûr de lui. J'ai certains des meilleurs sondages que je n'ai jamais eus. Alors je ne sais pas où Trump va chercher ses sondages, mais ce n'est pas ceux que les médias américains publient. Et d'ailleurs, Le Monde écrit, c'est l'inverse, effectivement. Les républicains sont gagnés par la fébrilité, et si Donald Trump les entraînait vers le précipice aux élections de mi-mandat en novembre. Voilà. Parce que les républicains sont, effectivement, sont sous la coupe. Qu'est-ce que disait le journal au début? Pour le domestiquer. Voilà. Mais si les républicains se prennent une énorme claque aux prochaines élections de demi-mandat, c'est-à-dire perdre des sièges, c'est autant d'élus qui vont se dire « Ok, le mec est un gros loser. » Et il nous fait perdre nos mandats. Les critiques de plus en plus fréquentes des principaux influenceurs MAGA trahissent une loyauté dispersée. Vous avez aussi beaucoup d'influenceurs, et notamment de créateurs de contenu proches de la sphère MAGA, qui se retournent de plus en plus contre Trump à propos de ce qui s'est passé avec l'ICE, de propos de ce qui se passe au Moyen-Orient, à propos de la hausse des prix, de l'inflation, des prix du carburant notamment. Les années Biden donnent l'impression d'un intermède très vite oubliable qu'on a tendance à négliger mentalement. On a le sentiment que Trump est président depuis très longtemps, ce qui est assez inhabituel, dit un rédacteur en chef d'un média américain. Or, la façon dont se comporte cette administration et les problèmes graves révélés par la guerre en Iran renforcent l'idée que cette coalition MAGA est finie. Elle n'est plus qu'une sorte de culte de la personnalité, l'homme providentiel toujours. La droite américaine doit réfléchir à la suite. Il y aura probablement une période d'errance, de lutte interne et d'incohérence. Alors, les élections de mi-mandat sont encore loin, hein, je ne sais plus si c'est en octobre ou en novembre, mais la donne actuelle est tellement négative qu'un renforcement semble difficile, estiment des experts républicains. Bon, là encore, moi je pense qu'il faut rester prudent. Tout peut se passer depuis... C'est novembre, hein. D'ici novembre. Le meilleur espoir serait de limiter la casse, de conserver le Sénat d'un cheveu, parce qu'a priori, le camp MAGA pourrait perdre la Chambre des Républicains, mais pourrait perdre aussi le Sénat. Aucun parti politique dans les temps modernes n'a fait autant pour porter atteinte au peuple américain, à notre sécurité nationale, tout en travaillant simultanément pour s'enrichir ainsi que ses donateurs et affaiblir nos droits fondamentaux et nos libertés, dit-on côté démocrate. Je ne vous lis pas tout l'article, si vous intéressez dans Le Monde. Aujourd'hui, page 2. Trump. À propos de Trump, les commentateurs s'interrogent. Est-il encore préoccupé par les midterms, lui qui méprise la voie parlementaire, vous savez le peu de cas qu'il fait du Congrès, s'apprêtant en juin à fêter ses 80 ans, camelot infatigable de sa propre gloire, il prétend changer son pays et le monde. Le milliardaire veut rebaptiser des bâtiments à son nom, ériger un arc de triomphe à Washington, plus grand que le nôtre, vous savez, au début il devait en faire un plus petit, puis il a dit « Je veux qu'il soit plus gros que celui de Paris ». Imposer son visage sur des passeports en édition limitée pour le 250e anniversaire de l'indépendance. Je ne pense pas que Trump soit indifférent aux midterms, estime un expert. Je ne crois pas non plus que l'histoire de la salle de bal soit importante politiquement. Trump a décidé que la guerre contre l'Iran est dans l'intérêt des États-Unis à long terme, malgré le coût à court terme. Je m'attends à ce qu'il en fasse plus sur l'inflation une fois la guerre finie. Est-ce que, quelqu'un me disait tout à l'heure, mais de toute façon, est-ce que c'est si important ces élections de mi-mandat, vu le peu de cas qu'il fait du Congrès? Tu as peut-être raison. Une défaite républicaine en novembre pourrait le conforter dans sa pratique d'un pouvoir exécutif sans concertation, agissant à sa guise en politique étrangère. En janvier, le New York Times l'interrogeait sur les limites de son pouvoir. Vous vous souvenez de cette phrase qui est devenue célèbre désormais, ma propre morale. Quelle est la limite du pouvoir de Trump? Ça n'est pas le Congrès, ça n'est pas la Cour suprême. Ça n'est pas la démocratie, ça n'est pas ma propre, c'est ma propre morale, c'est mon propre esprit, c'est la seule chose qui puisse m'arrêter. Voilà pour cette petite page sur Trump. Je vous lis. Y a Chouba qui demande la mégalomanie de Trump. La mégalomanie de Trump est perçue comment dans son camp? Alors, dans les sondages qui sondent le camp MAGA et le camp républicain, sa popularité est en chute forte. Voilà. Auprès de son cabinet, ce sont les gens qu'il choisit et dont il se sépare de certains membres quand ils ne sont pas suffisamment fidèles ou que leur image est trop ternie. Au niveau de son cabinet, le problème n'est pas là, mais au niveau de son camp, si on pourrait le dire simplement, oui, sa cote de popularité s'est nettement affaiblie. Après, d'ici 9 ans, il peut se passer plein de choses, hein. La guerre peut s'arrêter déjà. Prudence, hein, aujourd'hui, nous. L'image que nous avons de Trump, c'est celui-ci, d'un homme qui est, bon, qui a raté deux, trois trucs importants, quoi. Qui est assez bas dans le regard des Américains, y compris de son propre camp. Mais d'ici novembre, qui sait où on en sera? L'économie américaine, la croissance économique américaine, notamment avec les investissements en matière d'IA, est toujours bonne, hein. Par exemple, il y a toujours les tensions inflationnistes, mais tous les signaux sont pas au rouge, quoi. Je vous lis, je lis encore un ou deux messages et on enchaîne avec sur l'Allemagne, ce qu'il a dit, la guerre commerciale qui reprend et le fait qu'il annonce le retrait de soldats américains de l'Allemagne. Merci Sorax. Hop! Alors ça, il faut en parler quand même brièvement, mais il faut en parler parce que je dis brièvement parce que peut-être qu'il va revenir en arrière. Il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour dire oui, alors ces annonces de retrait de 5 000 soldats américains d'Allemagne, peut-être que dans quelques jours, ce ne sera pas 5 000. Enfin, suivons quand même ce sujet. Donc Washington, c'est une des infos du week-end, annonce le retrait partiel de ses troupes en Allemagne, décision qui a choqué en Allemagne, où la présence américaine revêt un caractère stratégique et symbolique depuis l'après-guerre, depuis la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr. Le président Trump a donc ordonné vendredi le retrait dans les 6 à 12 mois de 5 000 soldats américains stationnés en Allemagne sur les quelques 40 000 qui y sont stationnés de façon permanente. Si je dis pas de bêtises, l'Europe est le pays, pardon, l'Allemagne est le pays européen où il y a le plus de soldats américains sur son sol. L'annonce, bien que répétée de menaces répétées de Washington, a fait l'effet d'un coup de tonnerre en Allemagne où la présence américaine revêt un caractère stratégique et symbolique. Surtout, elle vient illustrer la dégradation continue des relations entre les deux pays depuis le début de l'offensive américaine en Iran. Ce retrait partiel des troupes américaines est en effet présenté comme une réponse aux propos critiques. Récemment, du chancelier allemand Friedrich Merz contre Washington à propos de cette guerre au Moyen-Orient. Lundi 27 avril, lundi il y a une semaine, Friedrich Merz a raillé publiquement l'opération militaire en Iran en marge d'une visite dans une école en déclarant les Américains n'ont manifestement aucune stratégie. Trump n'a pas apprécié du tout. Voilà. C'est toute une nation qui est humiliée par les dirigeants iraniens. Cette déclaration, probablement destinée à un public allemand majoritairement hostile à la guerre en Iran, à l'approche d'élections régionales à fort enjeu pour le chancelier, ont aussitôt suscité la colère du président américain. Celui-ci reproche aux Européens leur manque d'engagement dans le conflit au Moyen-Orient. Donc cette guerre qu'il a déclenchée, lui, sans en prévenir aucun de ses partenaires européens et de l'OTAN, il estime que les Européens ne s'engagent pas assez dedans. Le chancelier allemand devrait consacrer plus de temps à mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, où il s'est montré totalement inefficace à redresser son pays en ruine, notamment en matière d'immigration et d'énergie. L'immigration qui est l'une des marottes du président Trump, vous le savez. C'est ce qu'a déclaré le président américain jeudi dernier. Il a aussi ajouté que le chancelier allemand devrait passer moins de temps à interférer dans les efforts déployés pour éliminer la menace nucléaire iranienne, contribuant à rendre le monde et l'Allemagne plus sûrs. C'est vrai que le président Trump est aussi un président américain qui sait exactement ce qui est bon pour les Européens et ce qui est moins bon. Le président américain qui a dans le passé, soutenu publiquement plusieurs partis politiques européens, notamment avant des élections, partis situés sur l'extrême droite de l'échiquier politique. Sans répondre directement, Merz, le chancelier allemand, a tenté de jouer l'apaisement. Pour l'Allemagne, les enjeux sont énormes. Hein. Appelant à un partenariat transatlantique fiable au sein de l'OTAN, il a rappelé que l'armée allemande apportait sa pierre à l'édifice d'une OTAN forte et unie. Donc, en fait, plutôt que se fâcher, il y a eu une réponse très diplomatique de Friedrich Merz, hein, qui pourrait d'ailleurs, dans les prochains jours, faire que Trump recule. Alors effectivement, c'est ce que je disais, je ne me suis pas trompé, l'Allemagne abrite aujourd'hui le plus gros contingent de troupes américaines en Europe. Certains dans le chat parlaient de la base aérienne de Rammstein. Il y a aussi un hôpital militaire à Landstuhl. Présence historique qui s'est élevée jusqu'à près de 500 000 soldats, 40 000 aujourd'hui, a été considérablement réduite depuis la réunification des deux Allemagnes. Outre sa dimension sécuritaire et stratégique pour l'Allemagne, elle revêt également un fort enjeu économique, hein, pour les régions d'accueil, en particulier pour la Rhénanie-Palatinat. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, à la fin de son premier mandat, Trump avait déjà annoncé vouloir retirer d'Allemagne 12 000 soldats américains. Voilà. Mais Biden avait annulé ce projet. Donc, c'est pas nouveau, ça. Alors, je disais, la réponse de Friedrich Merz, le chancelier allemand, est très diplomatique, hein, tout en investissant massivement dans le réarmement de l'Allemagne. L'Allemagne est un pays qui est en train de se réarmer très très fort. Friedrich Merz s'est toujours efforcé depuis un an de soigner la relation avec les États-Unis dans l'espoir de convaincre le président américain de maintenir sa présence militaire en Europe sur fond de guerre en Ukraine et d'épargner le vieux candidat en matière de sanctions commerciales. Et pourquoi ? L'Allemagne est l'un des pays européens les plus dépendants des États-Unis, non seulement pour sa sécurité mais aussi sur le plan économique. Les États-Unis représentant 10% des exportations allemandes. Le 1er mai, le président américain a d'ailleurs opportunément annoncé taxer les importations de voitures et camions européens. Donc là, clairement, c'est l'Allemagne qui paye le prix le plus élevé avec l'industrie allemande et notamment automobile. Une mesure qui cible particulièrement les constructeurs allemands. Donc, relation tendue aujourd'hui entre Trump et l'Allemagne. Après, on verra ce qui se passe dans les prochains jours. Ce que Trump dit le lundi n'est pas forcément ce que Trump dit le mardi. Je vous lis et on enchaîne. Je vais me prendre un petit café aussi. Ah non, j'ai pas le droit au café. Prendre un verre d'eau. J'ai dit un café par jour maintenant. Salut Jordanizen. Pourquoi un seul café? Parce que je bois trop de café. May the fourth be with you. Ben, j'ai bien raison. Ouais. J'en ai bien besoin. Oh, mais oui, on est le 4 mai. Ah oui. May the fourth be with you. On est le 4 mai. C'est le jour de Star Wars aujourd'hui. May the fourth be with you. On est le 4 mai. Eh oui. C'est le jour de Star Wars. Eh oui. Eh oui. Ah, je connais pas Liano, Jean Micro. C'est le moment de sortir le sabre. Quel sabre? Que tu veux que je sorte le sabre de quoi? Ah, laser. Ah, ok. J'ai eu peur. Ok, d'accord. Et Nawal Paris nous dit que c'est aussi son anniversaire. Bon anniversaire, Nawal. Ok, bon, je vais me prendre un verre d'eau. Et après, on passe à cette chaîne info qui appelle à la mort des Palestiniens, précisément des Gazaouis. Alors, cette chaîne, elle n'est pas française, hein, elle est israélienne. Je vous en parle tout de suite. Voilà, l'article du Monde est édifiant. Hop, bougez pas. Un verre d'eau. Ouais, pour 10 secondes. J'ai mal aux jambes, j'ai couru ce matin. Faut résister, faut résister. Major Etienne, j'ai hâte de voir les conneries que les médias vont dire sur les free parties. Tu seras surpris par l'article de la Croix. C'est pour ça que je vous l'ai mis de côté. Au contraire, l'article est très. Il essaie de comprendre justement. Vachement intéressant. Alors cet article, il est dingue. Enfin, c'est pas l'article qui est dingue. C'est ce que révèle cet article, qui est dingue. Voilà. Alors c'est une chaîne d'infos. Une chaîne d'infos en continu, qui est de plus en plus regardée en Israël, qui s'appelle Channel 14. Channel 14, une chaîne de télévision israélienne accusée de discours génocidaires. La chaîne, aux audiences en constante progression, fait la part belle aux propos les plus violents, mais quand je vous dis les plus violents, vous allez halluciner, appelant notamment à l'anéantissement de Gaza. Trois ONG israéliennes ont fait un relevé de ces prises de parole et déposé un recours devant la Cour suprême israélienne. Lisons, c'est une correspondance à Jérusalem de Luc Bronner dans Le Monde. Deux hommes en direct sur l'antenne de Channel 14, on est le 2 novembre 2023, commentant la guerre en cours à Gaza. Alors que devons-nous faire? Demande l'animateur. Vous voyez des civils? Ouvrez le feu, répond son invité. Tirez sur des civils? Et l'invité répond: bien sûr, ce ne sont pas des civils. 10 février 2024, un journaliste de la chaîne commente en direct des images montrant la désolation de l'enclave palestinienne et il commente: je ne pense pas que quiconque dans l'État d'Israël ou en terre d'Israël doive avoir de la pitié pour ces Gazaouis, ni pour les adultes, ni pour les personnes âgées, ni pour les jeunes, ni pour les enfants, les Gazaouis, pour que ça m'importe qu'ils meurent de faim, qu'est-ce que j'en ai à faire d'eux? Ça n'est pas un invité, c'est un journaliste de la chaîne qui le déclare. Le 20 février 2025, maintenant, un ancien officier israélien est invité dans une émission de débat sur cette chaîne et déclare: tous les Gazaouis sont les méchants parmi les nations du monde. C'est ce groupe barbare, cette foule, et ils n'ont pas le moindre droit d'exister. La plus grande justice sera faite lorsque Gaza sera débarrassé des Gazaouis, assure cet ancien militaire. Enfin, toujours colonel de réserve. Voilà. Trois scènes parmi des centaines, écrit Le Monde. Bienvenue sur, enfin bienvenue, Channel 14, la chaîne de télévision qui revendique de dire tout haut, dans un mélange de patriotisme exacerbé, de polémiques sulfureuses et d'humour raciste, ce que pense une large partie des Israéliens de droite et d'extrême droite. La chaîne qui dit tout haut ce que pense une partie de la population, c'est marrant, ça me fait penser à une autre chaîne, peu importe. Sur Gaza, qu'il faudrait donc détruire totalement, sur l'Iran, sur le Liban, sur les électeurs de gauche, sur les juges, sur les autres médias, sur l'état de droit, allons-y quoi. Hein. L'immersion dans les émissions diffusées par cette chaîne est une plongée dans un monde violent, brutal, simpliste, où la comédie humaine des talk-shows entre convivialité et insultes s'empare de religion, de politique intérieure, de guerre, en y appliquant une vision profondément déshumanisante de l'ennemi palestinien. On voit qu'il y a plus de plateaux, de débats dans cette chaîne que de reportages. Ça aussi, ça rappelle une autre chaîne d'ailleurs. Le média raconte l'Israël d'après le 7 octobre, d'après les attentats du Hamas. Pas toute la société, mais une partie significative qui compose l'électorat de Benjamin Netanyahou et de ses alliés suprémacistes juifs ouvertement racistes pour certains d'entre eux. Alors, Channel 14 est longtemps resté marginal, cantonné à une audience limitée. Lancée à l'origine en 2014 comme une chaîne de niche consacrée au patrimoine juif, elle a connu une transformation radicale après son rebranding en 2021. Soutenue par un milliardaire russo-israélien, elle s'est réorientée vers la politique, s'alignant sur le Premier ministre Benjamin Netanyahou et sur l'extrême droite. Donc c'est une chaîne qui a vu sa ligne éditoriale évoluer. Profitant d'une réglementation favorable, elle n'a cessé de progresser depuis 4 ans, atteignant 7 à 8% d'audience, ce qui est beaucoup hein, pour une chaîne d'info. Ce qui la place régulièrement à la deuxième place des chaînes d'info, notamment deuxième place derrière la chaîne 12, qui est le leader historique. Son impact s'est accentué depuis le choc du 7 octobre 2023 lorsque le Hamas a attaqué. Donc ça a eu un avant et un après. Avec des mots qui annonçaient explicitement l'ampleur de la guerre d'anéantissement menée durant les 2 années qui allaient suivre. Ne leur donnez pas d'eau, ne leur donnez pas d'électricité, qu'ils meurent là-bas, amen, déclare le présentateur, le 7 octobre 2023. Un participant à l'émission du soir, Les Patriotes, l'émission s'appelle Les Patriotes, déclarait le 7 octobre 2023 au soir, je vous le dis, il ne faut pas seulement tuer le Hamas, tous les cannibales doivent mourir. Voilà. Un autre invité déclarait, il n'y a pas d'innocents à Gaza. En fait, quand on parle de population, il n'y a pas de population. Il y a 2,5 millions de terroristes. Cette personne incluant bien sûr les civils, les femmes, les enfants dans cette phrase. Alors, des extraits comme ça, vous en avez des centaines. C'est un appel au génocide, dit Rejoxi. Oui. Oui. Un journaliste de la chaîne, le 17 octobre 2023, nous devons bombarder sans distinction. Nous faisons une distinction, et je pense que ce n'est pas une bonne chose. Je l'ai dit hier, je le répète, peut-être que l'armée de l'air devrait redoubler d'efforts et ne pas faire de distinction entre ceux qui sont impliqués et ceux qui ne le sont pas. Alors ce déferlement d'appels à la vengeance et de propos qui relèvent de propos génocidaires, hein, vous avez raison, sont documentés scrupuleusement par 3 ONG. ONG israéliennes, qui s'appellent le Bloc démocratique, Zulat et le Mouvement pour une réglementation équitable, qui ont recensé ainsi plus de 500 extraits ou citations problématiques à l'antenne, sur le site ou sur les réseaux, entre octobre 2023 et mai 2025, dans une base de données. Cette documentation a servi pour partie au dépôt d'un recours, d'une plainte, devant la Cour suprême israélienne afin de dénoncer ce qu'elle qualifie d'inaction de la police. Dans la requête des ONG, ces mots, dès la terrible nuit du samedi 7 octobre 2023, la chaîne Channel 14 a commencé à diffuser des déclarations qui consistent une incitation flagrante et grave au génocide, hein, au crime contre l'humanité et au crime de guerre à l'encontre des habitants de Gaza et parfois des Arabes de Cisjordanie également. De surcroît, des déclarations fréquentes ont été faites qui constituent une incitation à la violence, une incitation au racisme. Des dizaines d'extraits relèvent pour les 3 ONG israéliennes de l'incitation au génocide, incrimination sanctionnée dans le droit pénal israélien, à propos desquels la police aurait dû enquêter immédiatement. Alors, parmi les propos visés dans la plainte, hein, Israël doit anéantir Gaza, il ne doit en rester aucune trace, voilà, déclaration d'un élu. La justice doit être rendue ainsi, il faut tout raser, je vais raser Gaza, je n'ai aucun scrupule, dit une députée. Détruisez, tuez et rasez tout, brûlez les maisons, détruisez les infrastructures. J'espère que toute cette zone de Ran Younes, si l'armée s'y trouve déjà, sera détruite pour qu'il n'en reste plus que des cendres, un journaliste de la chaîne. Je pourrais continuer longtemps comme ça. Hein. Au cours des 2 premiers jours, nous avons dû tuer 100 000 Gazaouis. Il y a sans doute très peu d'humains parmi eux. L'article est insoutenable, dit Akouseki. Ça n'est pas l'article qui est insoutenable. Ce sont ses propos tenus sur cette chaîne. Et c'est le devoir justement d'un média de les dénoncer. Qui, avant cet article du Monde, connaissait l'existence de cette chaîne israélienne et le fait qu'elle fait de l'audience, qu'elle est regardée par une partie non négligeable de la population israélienne, qui en parlait? C'est pas l'article qui est insoutenable. C'est ce qui se passe sur cette chaîne. Alors justement, qui regarde Channel 14? Les émissions de Channel 14 touchent un public jeune, souvent plus religieux et plus à droite aussi que le téléspectateur moyen israélien. Des études réalisées en 2024 par l'Institut pour la démocratie en Israël, un cercle de réflexion, montraient qu'une part significative de ces téléspectateurs et de ces lecteurs sur Internet, dont le cumul représenterait 20% de la population. On estime que le cumul des gens qui consomment d'une manière ou d'une autre cette chaîne, ça représente 20% de la population israélienne. Hein? Qui regarde même exclusivement cette chaîne. La bulle d'information, qui ne regarde que ça, quoi. À l'inverse, la proportion de téléspectateurs classés au centre ou à gauche est quasi nulle, tout comme les invités arabes au sein des émissions, alors qu'ils représentent 20% de la population. Quelle surprise! Et donc, que penser de tout cela? Il existe un public pour une chaîne comme cela. Ces partisans de droite aiment suivre une émission télévisée, une chaîne de télévision qui font office de caisse de résonance pour leur opinion, hein, la fameuse bulle informationnelle qui vient valider tes opinions. C'est ce qu'explique un professeur de communication qui s'appelle Gabriel Weilmann. Ils ont suivi la ligne que voulait Netanyahou, et cette ligne consiste à être militant, à rejeter la faute contre les autres. Tout le monde est mis en cause, y compris le Mossad, les services secrets israéliens, y compris le ministre de la Défense, y compris l'armée, y compris les services de renseignement. La chaîne participe également à la brutalisation de la vie politique israélienne en s'en prenant à des journalistes concurrents, à des hauts fonctionnaires ou à des élus du centre ou de gauche. Elle a été également critiquée à plusieurs reprises pour avoir propagé des théories complotistes, en particulier sur le 7 octobre 2023. Comme Fox News aux États-Unis ou CNews en France, mais sur une tonalité plus virulente encore, Channel 14 affirme être porteuse d'une vérité, la fameuse vérité dissimulée par les élites. C'est marrant parce que là, nous n'avons pas l'équivalent stricto sensu, puisque l'article compare cette chaîne à CNews, mais en disant que Channel 14 est beaucoup plus virulente. Mais ce fameux discours, vous savez, de la vérité dissimulée par les élites, c'est un discours que vous retrouvez aussi dans la bouche de certains médias et de certains élus en France. Vous les trouverez assez facilement. Notamment, tiens, dans une actualité qu'on évoquera à la fin de cette revue de presse. Ma voix a été réduite au silence. On dit que la voix de la majorité a été réduite au silence, dit ainsi une star de la chaîne. Depuis le 7 octobre, j'ai l'impression qu'un tremblement de terre secoue notre pays. Nous ne voyons pas tout, mais les choses changent, les choses doivent changer, dit l'animateur. Voilà. Merci Le Monde de la lumière portée sur cette chaîne israélienne. Je vous lis. Alors, on a mis Jean-Luc Mélenchon à la manière sur YouTube, mais on mettra aussi monsieur à l'oncle porté visé par une nouvelle plainte à la fin. On est choqué parce que c'est Israël, me dit Lucie Liberté, mais c'est un discours commun d'un pays dirigé par l'extrême droite. Charou, deux points, l'extrême droite porte les mêmes idées dans tous les pays. On s'informe bien 100% avec toi, me dit Vior. Mais je vous invite justement à ne pas vous informer 100% avec moi. Aucune bulle informationnelle n'est bonne. Il ne faut jamais s'informer auprès d'un seul média. Au contraire, allez chercher des gens qui ne pensent pas comme moi, des gens qui portent pas les mêmes valeurs que moi. Allez consommer les autres informations et revenez, faites des allers-retours. Ah, c'est important. Ne jamais s'informer dans une bulle. Bon, après, l'avantage de cette revue de presse, c'est qu'on cite quand même beaucoup de médias assez différents, quoi. C'est le principe de la revue de presse, c'est pour ça que j'aime bien la revue de presse, justement. Parce que l'exercice de la revue de presse permettent déjà de sortir d'une bulle, puisque par définition, la revue de presse cite des médias aussi différents que Mediapart et Le Figaro, que L'Humanité et L'Opinion, que La Croix et Le Parisien. Voilà, donc ça, c'est ce que j'aime dans l'exercice de la revue de presse. C'est pas moi qui est intéressant, c'est l'exercice qui est intéressant. Allez, on enchaîne. Avec. Ah, les free parties. Quelqu'un me disait tout à l'heure, voilà, j'ai hâte de voir le regard de. En gros, je résume. Le regard de boomer des médias sur les free parties. Tu vas être très surpris par cet article de La Croix, qui, plutôt que de donner la parole à toutes les voix qui se sont élevées contre le rassemblement là, qui vient d'avoir lieu, c'est dans quelle région d'ailleurs, j'ai aucune idée, moi. C'était où ça? Près de Bourges, eh bien, et plutôt aller voir les teufeurs et essayer de comprendre les motivations des adeptes des free parties. Merci Sorax, merci encore. Entre 17 000, pourquoi vous dites cher? Non, c'est pas cher, c'était free, c'est free party. Pourquoi vous dites c'est cher? Pas du tout. Mais vous racontez n'importe quoi. Mais non, c'est des free parties, c'est pas cher. Ah, Bourges dans le Cher. Bah, elle est bonne en vrai, non? Entre 17 000 et 40 000 personnes ont participé cette fin de semaine à une free party. Free party, pourtant, dans le Cher. C'est quand même très bizarre. Sur un terrain militaire près de Bourges. Donc j'ai eu plein de reportages ce week-end sur les chaînes d'info. Oui, ils vont tous exploser, il y a des bombes. Bon, je crois qu'il n'y a pas de bombe qui a explosé. Alors qu'un projet de loi prévoit de sanctionner plus sévèrement l'organisation de ces fêtes sauvages, leurs amateurs, et c'est l'objet de cet article de La Croix, défendent un mode de vie. J'y vais depuis que j'ai 16 ans, dans ma famille ce sont des teufeurs. L'idée c'est de se rassembler autour de quelque chose de symbolique, dit Alice par exemple, 25 ans, adepte de ces free parties, ces fêtes, ou de la musique électronique, souvent de la techno, tambourine, parfois pendant plus de 48 heures. Tambourine, c'est trop mignon. Organisées et encadrées par des bénévoles qui fournissent les enceintes et s'occupent de la prévention et de la sécurité, elles prennent place dans des friches industrielles, des champs ou des forêts. On réfléchit à être dans des endroits reculés pour éviter les nuisances sonores. Nous ne sommes pas là pour embêter les gens, précise Alice, qui voit l'autogestion comme la valeur cardinale de ces soirées. J'aime bien dire que c'est une zone d'autonomie temporaire. Si la plupart des free parties y réunissent plusieurs centaines de personnes, le chiffre peut très vite grimper à plusieurs milliers. Cette fin de semaine, entre 17 000 et 40 000 personnes se sont ainsi retrouvées sur un ancien terrain militaire près de Bourges, dans le Cher. Je ne vois pas bien ce que vient faire cette notion socio-économique de Bourges. Il manquerait plus que La Croix dise des gros Bourges. Je ne suis pas sûr que tous les participants à cette free party étaient des Bourges, hein, ni des gros Bourges, hein. Cette information me semble un petit peu étrange. Bon, peu importe. Ça fait beaucoup d'approximations quand même. Alors, d'où est né le concept de free party? La free party est née en Angleterre en 87 et moi, j'y étais. Bon, pas en 87, mais j'étais en 90. Et ça a fait des free parties ici en Angleterre. Voilà. Que vous n'étiez pas encore, que vous étiez encore, que vous n'étiez pas né, qu'on était déjà en free party ici. Alors, vous n'avez peut-être pas, hein, vous n'avez pas voulu la ramener avec vos trucs là. En réaction à la décision de Margaret Thatcher, ancienne première ministre, la dame de fer, de fermer les clubs du pays à partir de 2h du matin. Tu dis aux Anglais, qui aiment bien faire la fête, que les clubs ferment à 2h. C'est pas l'idée du siècle en vrai. Un mouvement de grande ampleur naît alors, voilà, dont l'objectif est d'écouter de la musique sans contrainte. Voilà. Très vite, il essaime partout en Europe, jusqu'à arriver en France dès les années 90, à l'initiative de collectifs britanniques. Eh ouais, et moi j'y étais, moi. Tu étais sous quoi? Hein, moi je, hein, je. Non, je dis que j'y étais, je raconte pas mes soirées. Enfin, mes journées. Enfin, mes 48 heures. Je vous raconte pas. C'était il y a longtemps. L'idée de la fête libre, c'est de sortir d'un carcan contraignant pour créer ses propres normes, avance Alexandre Grondeau, universitaire et écrivain spécialiste de la fête. C'est un espace où l'on peut respirer un peu en dehors de la société, abonde Safouane, 24 ans, amateur de techno depuis ses 17 ans. Pour beaucoup, la free party et ses valeurs s'inscrivent plus largement dans un mode de vie. Hein. C'est très politique, la philosophie de la free party me suit au quotidien dans ma manière de consommer, explique Leïla, 20 ans, qui évite les grandes enseignes, valorise le partage et l'échange de biens. C'était avant ou après le Japon? C'était avant le Japon, je suis parti au Japon après. Depuis sa création, le mouvement est particulièrement scruté par les autorités du fait des nuisances et dégradations qu'il peut entraîner. En mai 2025, une fête illégale réunissant 10 000 personnes pendant un week-end à Montvalent et Rocamadour a causé de nombreux dégâts pour un préjudice estimé entre 120 000 et 150 000 euros. Un agriculteur s'est plaint que 60 hectares avaient été détruits. En 2021, à Redon, en Ille-et-Vilaine, un participant avait eu la main arrachée par une grenade tirée par les gendarmes. Dans l'opinion publique, la free party n'a pas bonne presse. On nous voit comme des bouseux, des drogués, souffle Safouane. une représentation à nuancer selon Alexandre Grondeau qui décrit un public extrêmement éclectique. Dans son groupe d'amis, Leïla compte un journaliste. Alors ce n'est plus moi. Hein. Moi je suis père de famille, maintenant j'ai laissé tomber. Hein. Je ne fais plus les free parties. Une avocate et un scientifique. L'usage de la drogue est aussi à modérer. Dans les enquêtes que nous avons faites, la consommation de drogue est loin d'être le facteur dominant, affirme le spécialiste. Cela n'empêche pas certaines drogues dures comme le LSD ou l'ecstasy de circuler. On assume le fait qu'on prenne de la drogue, on ne rejette pas les personnes qui consomment, on leur offre un cadre pour consommer de manière consciente, défend Leïla. Le gouvernement a récemment annoncé vouloir durcir la législation en vigueur. Il propose un tout arsenal législatif avec le projet de loi Riposte pour réponse immédiate aux phénomènes troublant l'ordre public. Margaret Thatcher doit être contente. Ah ben non, elle est morte. Je suis con. Qui doit être examiné au Sénat à partir du 18 mai. Alors c'est un projet de loi ou c'est une proposition? Ouais, c'est un projet de loi. 18 mai, deux jours avant mon anniversaire. Ah, bah je ferai une free party, tiens. Le texte prévoit 2 ans d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende, la confiscation du matériel du véhicule ayant servi à son transport pour l'organisation d'une free party, jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende pour les participants. Vous venez à une free party, si la loi est votée, c'est 6 mois de tôle et 7 500 euros d'amende. Eh ben, j'attends le débat sur ce texte avec impatience. Des sanctions plus sévères encore que la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l'organisation de rave party de la députée Horizon Laetitia Saint-Paul, adoptée le 9 avril à l'Assemblée. Parce que j'apprends que le 9 avril a été adoptée une proposition de loi. Décidément, ça fait feu de tout bois sur le sujet. Les adeptes, eux, n'ont pas l'intention de renoncer. Fidèles au mot d'ordre du mouvement, rien n'arrête un peuple qui danse. Ok. Madame, attention, parce que là, il y a des projets de loi qui arrivent. Je vous lis. Je préfère les frites parties. On peut aimer les frites et les frites parties. Hein. À quand une commission d'enquête sur les frites parties? Ah bah tiens, ça pourrait plaire à notre ami dont on va parler à la fin de cet article-là. Monsieur Alloncle. J'ai déjà participé à une free party, oui. À l'époque où ça n'existait pas en France encore, en 1990, en Angleterre. Grosse free party. Je pense qu'on était 15 000 dans des champs. J'étais jeune, on était fou, on aimait le fun. Tu n'as pas fait la piscine Molitor à l'époque? Ah oui, c'est les trucs de bobo, ça, j'ai fait ça. C'est les fêtes Canal+, ça. Ouais, c'est les trucs de bobo, ça. Mais il y avait des trucs à la piscine Molitor, ouais. Comment as-tu appris qu'il y avait ce genre d'event en Angleterre? Bah parce que je me promenais en Angleterre, parce que je fais un road trip de 3 semaines en Angleterre, en solo. Voilà, j'allais à droite, à gauche, puis un soir, j'ai rencontré de jeunes gens qui m'ont dit, bah viens, on t'emmène à une fête. Oui. Et voilà. Comme ça, je me suis retrouvé dans un champ. Au hasard. Bah oui, le hasard des rencontres, quoi. C'est les meilleurs voyages. Hein. Tu pars, tu sais pas où tu vas. Ah non, mais c'est vrai en plus. T'es resté éveillé combien de jours? 3, je crois. 3. Trop de café. Déjà à l'époque. La vie de bohème, exactement. Trop de café. C'est pour ça que j'essaie de diminuer. Et beaucoup de sucre? Non, je n'ai jamais pris trop de sucre, moi. Anti-care, je ne suis absolument pas contre du tout les free parties, me dis-tu. Mais il ne faut pas fermer les yeux sur les dérives possibles dans ce genre d'événement. Déjà, en festival cadré, c'est souvent n'importe quoi, donc bon. Non, il faut. Par exemple, je pense aux agriculteurs, c'est vrai que. En vrai, les agriculteurs, ils n'ont pas besoin de ça. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Ah! Ah, trop bien. Mais c'est un bon souvenir, c'est un bon souvenir. Ça, je sais ce que c'est, quoi. J'ai des potes qui en font régulièrement, me dit que la coquine, elles me disent qu'elles se sentent toujours en sécurité sur place, plus que dans les festivals, malgré la consommation de toute drogue sur place. Les nuisances sonores pour le voisinage, ça reste atroce, me dis-tu. Voilà. Bon, c'est vrai. Moi, j'ai un regard plutôt positif sur ces trucs-là, mais voilà, il faut. Idéalement, il faut qu'il n'y ait pas de nuisance pour les riverains et puis pour les agriculteurs, hein, on est d'accord. Tu laisserais tes enfants y aller? Non, à 9, 6 et... ans et 8 semaines, non. Non, ça me paraît trop tôt. Ouais. Ça me paraît trop tôt. Ouais. Mais après, on ira ensemble, quand ils seront plus grands. Ouais. Avec mon thermos. Non, 8 semaines, non, 8 semaines, c'est trop tôt. Ces petites oreilles, là. Oh, t'imagines le pauvre? Non. On danse moins bien en déambulateur, mais Rex, je t'emmerde moi surtout. T'en donner moi du déambulateur, tu sais où je te le mets le déambulateur? Je m'en cassais du genou moi avec mon déambulateur, tu vois. Tu verras. Ça vient me voir dans la rue avec mon déambulateur, tu verras ce que j'en fais. C'est dingue ça. Aucun respect. Oh, trop chou, c'est fou, mes trois enfants ont presque tous le même âge. 11 semaines, 5 ans et 9 ans. Trop chou. Il y a une grosse famille ici. Hein. On aime les grosses mères, on aime les grosses familles. Ok, qu'est-ce qu'on a après? Ah, l'apprentissage. On reste un peu avec la jeunesse, c'est pas mal. Alors, moi, je suis content de cet article-là, hein, qui arrive là. Où est-ce qu'il est le sommaire? Parce que. Ces derniers mois, j'ai vu passer des articles sur les tensions, sur l'apprentissage, plein de jeunes aujourd'hui qui cherchent des apprentissages et qui trouvent plus parce que les crédits sont en train de se réduire. Alors, je cherchais un peu un article global là-dessus qui m'explique pourquoi ça a eu du succès, pourquoi aujourd'hui les crédits sont réduits, etc. Et je le trouvais pas. Bah, je l'ai trouvé. Voilà. Donc, on va faire le point sur l'apprentissage, la réforme de l'apprentissage, pourquoi ça a super bien marché, pourquoi aujourd'hui les crédits se réduisent. Et globalement, je trouve que le truc est plutôt bien fait. Let's go. Le bilan en demi-teinte des années dorées de l'apprentissage, article dans les échos. Margot Bult signe cette analyse. Si les dizaines de milliards d'euros dépensés depuis 2018 ont amélioré l'employabilité à des centaines de milliers de jeunes, ils ont surtout profité à des apprentis très diplômés. Alors, ça, le truc aurait été un petit peu détourné. Le patronat tente de sauver un dispositif de plus en plus raboté. Lisons. La très généreuse politique, parce que rappelons que c'est quand même Macron qui a lancé ce truc-là, politique de l'apprentissage sous Emmanuel Macron a-t-elle fini par dévoyer un dispositif reconnu pour être pourtant un excellent tremplin vers l'emploi? Hein, c'est ma situation, ça, de chercher une alternance pour rien trouver, me dit Théo dans le chat par exemple. Au vu des dizaines de milliards d'euros dépensés, la question risque. Mérite d'être posé. Retour en 2018, ça commence en 2018. Une loi votée en septembre 2018 décage l'âge limite de 25 à 29 ans, allonge la durée des contrats, simplifie les procédures avec une aide unique étalée sur 3 ans, un peu plus de 4 000 euros la première année, 2 000 la deuxième, 1 200 la troisième. Priorité donnée aux entreprises de moins de 250 salariés et aux jeunes peu diplômés. Bon, ça paraît pas mal. Le nombre de contrats signés s'envole. On passe de 320 000 à plus de 500 000 en 2020. Donc en vrai, c'est une dinguerie. 2 ans plus tard, dans le cadre du plan Un jeune, une solution en pleine pandémie de Covid, le vote d'une aide exceptionnelle achève de faire exploser les compteurs. Elle est beaucoup moins ciblée que la précédente, accessible à tous, quel que soit le diplôme. Ah, Donc c'était en plein Covid, mais c'est peut-être là que ça a été un petit peu abusé. Jusqu'à bac plus 5, de l'apprenti de la taille de l'entreprise. Et plus de limite. Entre 5 000 et 8 000 euros supplémentaires s'ajoutent. Allez! En première année de contrat, à l'aide accordée depuis 2 ans, exceptionnelle, cette aide sera pourtant reconduite jusqu'en 2022, au-delà de la crise sanitaire. Les vannes sont ouvertes, donc on est parti de 320 000 contrats avant la réforme à 700 000 contrats, 800 000 contrats, 900 000 contrats signés en 2024. La France atteint le palier du million.
Des millions. Des millions, hein, vous êtes charmante. Mais... Vous voyez ce que ça fait déjà, 1 million, Armina?
Eh ben, c'est beaucoup. Le palier du million d'apprentis sous contrat, soit 2,4 fois plus qu'en 2018, avec des résultats positifs indéniables. Hein? Insertion professionnelle facilitée pour des centaines de milliers de jeunes qui mêlent formation théorique et pratique. Embauche facilitée côté entreprise. Augmentation de la part des femmes parmi les apprentis, 33-43% en 6 ans. Formidable! C'est formidable. Bah, sauf que ça a coûté un peu de sous, quoi. Voilà. Mais l'objectif fixé par Emmanuel Macron de 1 million de contrats signés annuellement a un coût, une facture principalement payée par l'État. Quelqu'un me disait, ah oui, bon, c'est l'Allemagne avait compris avant tout le monde. Ah oui, mais attention. En France, la facture est principalement payée par l'État, contrairement à l'Allemagne, où les entreprises financent le volet formation pratique de l'apprenti. La DARES calcule un coût passé de 6 milliards d'euros en 2018 à 16 milliards. Eh oui. Pour 2024, un chercheur qui s'appelle Bruno Coquet. En incluant notamment les allégements de cotisations sociales, parvient lui à un calcul de 24 milliards d'euros par an. Voilà. Un tel niveau de subvention est inédit, pointe-t-il, et il s'explique largement par l'aide non ciblée de 2020, hein, étudiants plus âgés, plus diplômés, mieux rémunérés, qui ont soudainement bénéficié d'aides de l'État qui rendaient quasiment gratuite leur première année de contrat pour l'entreprise. C'est ce que dit Petit Ekat dans le chat. Le problème également, c'est que ça sature le marché de l'emploi. Les entreprises embauchent des alternants bac plus 5 à la place de salariés. Mon secteur est totalement bouché à cause de cela. Pour le professeur d'économie Christophe Rodriguez, le constat est clair. La massification de l'apprentissage n'a pas profité aux jeunes actifs les moins qualifiés pour lesquels ce dispositif initialement avait été conçu. La forte augmentation du nombre d'apprentis depuis 2018 a en effet surtout été portée par les jeunes préparant des diplômes élevés. Le nombre de ceux préparant une licence ou un master a augmenté de 400% contre 76% seulement pour les apprentis moins diplômés. Et par le secteur des services et non par les métiers industriels en tension. Ah! Donc à un moment, le truc est devenu très généreux et n'a pas forcément ciblé ceux qui en avaient le plus besoin, vous l'avez compris. Or, l'apprentissage double la probabilité d'être embauché pour un étudiant au niveau CAP, mais ne fait pas une grande différence au niveau master, dénonce le Trésor. Effet d'aubaine, donc, les jeunes très diplômés auraient certainement été embauchés même sans les aides publiques. Les fédérations professionnelles, elles, continuent à défendre un investissement rentable pour l'État. Une étude de 2023 conclut que pour 1 euro investi dans l'apprentissage, 1,09 revient dans les finances publiques. Malgré ces arguments, à partir de 2023, l'État fait marche arrière. Bon, les caisses sont vides aussi, hein. Les deux aides convergent. Leur montant diminue. Depuis mars 2026, l'aide est comprise entre 4 500 euros et 750 euros. Voilà. Donc, 4 500 pour un étudiant peu diplômé dans une PME et 750 euros pour un étudiant plutôt diplômé dans une grande entreprise. Donc, on est revenu à l'esprit originel de la réforme, d'ailleurs. Les rémunérations d'apprentis au-delà de 50% du SMIC ne sont plus exonérées de CSG et de CRDS. Voilà. Les coups de rabot successifs finissent par inverser la courbe. Alors on est monté jusqu'à 1 million de contrats signés annuellement. Là, on est à combien là? En 2025, le nombre de contrats a reflué de 5%. Ce n'est pas encore gigantesque cette baisse. Bruno Coquet préconise d'aller plus loin en revenant à la réforme de 2018 qui excluait les apprentis en bac plus 5 et les grandes entreprises du dispositif. La Cour des comptes appelle au même recentrage. Les syndicats patronaux s'opposent évidemment sur. Alors, c'est quoi l'U2P? L'U2P, c'est quoi d'ailleurs? U2P. C'est quoi l'U2P? L'article dit que le MEDEF et l'U2P s'opposent. L'U2P, c'est quoi? C'est un syndicat patronal de petite entreprise? U2P, ça doit être ça. U2P, c'est quoi? Ah, c'est TPM. Oui, TPE et PME, c'est ça, ouais. Donc l'UDP pour les petites et moyennes entreprises et le MEDEF s'oppose évidemment sur le soutien aux grandes entreprises, mais les organisations patronales déplorent toute la fragilisation d'une formation d'excellence et d'un dispositif d'insertion essentiel pour les jeunes et réclament à présent de la stabilité dans les règles budgétaires. Le retour en arrière n'est pas simple pour les acteurs du dispositif qui en profitent tous, les apprentis qui reçoivent un revenu partiellement exonéré, assorti de droits à la retraite et au chômage, les employeurs qui bénéficient de subventions à l'embauche, ça coûte moins cher, les centres de formation d'apprentis qui ont connu une forte croissance de leur chiffre d'affaires, le gouvernement qui affiche des succès sur l'emploi des jeunes, à la caisse, le contribuable français est en droit de demander la facture. C'est la chute de l'article. Je vous lis. Les grosses entreprises qui prennent des apprentis en bac plus 5, alors qu'ils pourraient payer un salaire et former en VAE, c'est de l'abus, me dit Airthom. J'ai pu reprendre mes études à 29 ans grâce à cette mesure. Je n'avais qu'un bac techno, me dit Kayo Shinra dans le chat. Sans cela, je n'aurais jamais pu me développer professionnellement, surtout dans un secteur que j'aime. Aujourd'hui, je vais passer mon bac plus 2. Et maintenant que les aides baissent, on se retrouve beaucoup à ne plus trouver d'entreprise pour l'année de licence pro. Même dans ton cas, parce que tu me sembles quand même concerné par le truc, toi. Après l'apprentissage en bac plus 5, ça permet à certaines personnes issues du milieu défavorisé, me dit Aleph of Enix, de faire de longues études car les loyers en grande ville, c'est pas donné. C'est intéressant. Les études supérieures, ça coûte très cher. J'ai beaucoup d'amis qui n'auraient pas eu les moyens de faire sinon leurs études d'ingénieur, me dit Lycos. Ah, c'est intéressant. Il y a aussi tout le business des écoles privées, me dit Petit E4, qui se montrent uniquement sur l'apprentissage parce qu'elles offrent des contrats aux étudiants en recherche type master et pas master. J'ai profité de cette mesure, me dit Royenki, ça a été très cool pour moi. Par contre, force est de constater que les entreprises en profitaient trop. Je voyais les entreprises avec 4 apprentis pour un tuteur du n'importe quoi. Non, le Minster, chez Doshine, c'est autre chose, c'est un fromage. Waouh! Je ne veux pousser personne sous le bus, me dit Baguette Bois, mais j'ai fait mon alternance dans une major internationale dont la branche française comptait 500 salariés et 90 alternants en master. Bon, certains, manifestement, certaines entreprises ont bien profité du dispositif. C'est ça le problème, c'est que certains ont abusé, quoi. D'ailleurs, mercredi, on a un MVP. Mercredi, là, j'ai un MVP. Je sais pas si j'ai déjà un visuel à vous montrer. Ça me fait penser qu'on a un MVP, ouais. Je sais pas de quoi on va parler d'ailleurs. Qu'est-ce que je vais vous dire de quoi on parle mercredi? Ah putain, j'ai pas. Ah, je n'en ai pas parlé à. Ok. Bah, je sais pas encore. Désolé, je peux pas vous dire encore parce que j'ai raté un retour. Merde. De toute façon, j'ai un Teams à 13h30. La midi 30, j'ai un Teams pour parler de littérature. Eh ouais. Et à 13h30, j'ai un... Dans une heure, donc. Il reste combien de sujets? Oh, il ne reste qu'un sujet, ça va. Et à 13h30, j'ai un autre Teams pour préparer le MVP, ma vie pro, de mercredi. C'est quoi les RQTH? Au charou. Relations quotidiennes très high level. C'est quoi les RQTH? Samuel, t'as dit putain. Ouais, je peux dire prout aussi, ouais. Ah, c'est du handicap? Ah, c'est reconnaissance travailleur handicapé? Ah, c'est intéressant. On n'a pas parlé de ça dans MVP déjà? Si c'est pas le cas, il faudrait le faire, ouais. Il nous reste un sujet, mais quel sujet? Oh, c'est le petit sujet de la fin. Il y a eu un invité sur le sujet? Ouais, mais il faudra en faire plus. C'est un petit sujet léger à la fin, là. Ok. Allez. Oh, on va s'hydrater par contre avant le dernier sujet là. Résiste, ça met pas de café, on a dit aujourd'hui. Non, non, mais vous avez raison. De toute façon, on ne parle jamais assez du handicap dans notre société. Voilà. Vous savez mon opinion là-dessus. Tu as vu passer l'enquête de Mediapart sur les girafes Sophie la girafe fabriquée en Chine? Ouais, j'ai vu, c'est Tonika, j'ai vu ça, ouais, c'est vachement intéressant. La fameuse girafe Sophie la girafe qui mise sur une image made in France, et en fait on s'est rendu compte via l'enquête de Mediapart que quand ils ont voulu augmenter leur production, ils ont fait faire ça en Chine, et que l'essentiel des Sophie la girafe serait aujourd'hui fabriqué en Chine. Alors que l'entreprise continue de vendre un côté un peu made in France. Ouais, tout à fait. J'ai vu ça. Enquête Mediapart, tout à fait, tu as raison. Bon. Vous avez à lire ça dans Mediapart, si vous voulez. Ça vient de tomber, là. C'est une dernière enquête de Mediapart. Bon. Avec un prix made in France. Bon, je sais pas. On y go? Allez, dernier sujet. Et à la fin, on parlera des pétitions. La pétition qui demande justement la création d'une commission d'enquête parlementaire sur la question des féminicides. Mais là, ça va être d'une autre commission dont on va parler. Alors, c'est parti. Et on va le mettre sur YouTube aussi. Bim. Bam. Boum. Amis de YouTube, bonjour. Vous êtes dans la matinée Étienne sur Twitch, on est lundi, alors je vous souhaite un bon lundi, je vous souhaite une bonne semaine. Avec les amis de Twitch, on s'est dit que dans toute cette revue de presse là, on allait partager avec vous une autre info sur que va devenir le fameux rapport dont les médias ont tant parlé sur l'audiovisuel public, le rapport issu de la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public. Alors, déception, déception, il devait être publié ce rapport aujourd'hui. Et puis, a priori, j'apprends que c'est demain. Bon. Donc, j'avais mis un petit article du Parisien pour vous dire ça, vite fait. Mais surtout, ce matin, je suis tombé sur une autre info partagée par plein de médias. Hein. Regardez, si vous trouvez là, un article sur France Info, dans l'Humanité, dans Le Monde, la République des Pyrénées, et dans le Figaro, voilà, sur le fait que le rapporteur de cette commission de l'Assemblée sur l'audiovisuel public, dont on attend le rapport, donc a priori publié demain mardi, vient d'être visé par une deuxième plainte. Oh, il y a une petite pub là. C'est une petite pub qui s'est ouverte, qui a pop là quelque part là. Voilà, on connaît, on connaît. Deuxième plainte. Pourquoi deuxième plainte? Puisqu'il y a une première plainte qui vise le rapporteur, qui a été déposée par Nagui, l'animateur. Nagui, l'animateur. Une plainte pour cyberharcèlement, harcèlement en ligne contre X, incluant donc certains propos tenus sur les réseaux, sur Internet, par Charles à l'oncle et par toutes les personnes qui ont repris ces fausses informations, ces fake news, ces propos diffamatoires. Et là, il y a une deuxième plainte, mais sur autre chose. Alors, découvrons ça ensemble. Donc c'est le titre du Figaro, commission sur l'audiovisuel public, une plainte contre X vise le rapporteur Charles Alonc et Lagardère News. Lagardère News, donc c'est le bloc média du groupe Bolloré. C'est CNews, c'est Europe 1, c'est le Journal du Dimanche. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Lisons. C'est une association qui s'appelle AC Anticorruption, qui accuse le député d'avoir influencé les débats lors de la commission, en posant des questions suggérées par le groupe de presse de Bolloré. C'est le journal Le Monde qui l'a révélé la semaine dernière, que ce groupe de médias détenu par le milliardaire Bolloré avait envoyé toute une série de questions toutes faites, toutes écrites, en disant bah voilà, il faudrait demander ça ou ça aux personnes auditionnées. Voilà. Une plainte contre X, alors X, pas le réseau social, bien sûr, hein. Une plainte contre X, c'est une plainte contre quiconque s'est rendu coupable de ces faits délictueux. C'est ça, une plainte contre X. Il nous fait chier, pardon, il nous fait chier, en vrai, Musk, d'avoir appelé son réseau social X. Parce que le problème, c'est que la plupart de ces propos qui tombent sous le coup de cette plainte contre X ont été tenus contre X. Le sur-X, vous voyez? Bah, c'est un enfer. Il aurait dû garder le nom Twitter, ça aurait été plus simple pour nos affaires judiciaires, mais bon, peu importe. Donc une plainte contre X a été déposée pour prise illégale d'intérêt et trafic d'influence. Qu'est-ce qui se passe? Donc Le Figaro nous raconte toute l'histoire. L'association AC Anticorruption a déposé plainte samedi, hein, c'est tout récent, estimant que le rapporteur de la commission sur le duel public, Charles Halloncle, a influencé la teneur des débats en posant, selon elle, hein, selon elle, des questions suggérées par la direction de Lagardère News, afin qu'ils en tirent tous deux des intérêts, Charles Halloncle et les médias du groupe Bolloré. Cette plainte contre X, donc X, c'est-à-dire contre quiconque a participé à cela, ça peut être toi, moi, vous, voilà. Pour prise illégale d'intérêt, trafic d'influence, a été, hein, c'est au procureur, après, celui qui va instruire l'affaire de déterminer, hein, qui est concerné. Pour prise illégale d'intérêt, trafic d'influence, a été envoyé samedi au procureur national financier, le PNF, Pascal Prache. Alors, effectivement, c'est le journal Le Monde qui a révélé ça la semaine dernière. Le Monde a révélé la semaine dernière, le 26 avril précisément, que la direction des affaires institutionnelles et réglementaires de Lagardère News, société de Louis Hachette Group, dont la famille Bolloré est le principal actionnaire, avait envoyé des listes de questions en disant, bah tiens, c'est ces questions-là qu'il faudrait poser à plusieurs députés, dont Charles Halloncle, donc porte-parole du parti UDR allié du RN, écrit Le Figaro, afin qu'il les pose aux personnes auditionnées. Ce dernier, donc Charles Halloncle, s'en est déjà défendu, parce qu'il a déjà réagi à ces accusations du journal Le Monde, a reconnu effectivement que, qu'est-ce qu'il a dit? Cette dernière a affirmé que s'il en avait été destinataire, il ne les avait pas utilisées. Donc il semble avoir confirmé avoir reçu ces questions, mais il dit, je ne les ai pas utilisées. Ce sont des éléments qui ont été envoyés sur la boîte publique d'un certain nombre de députés, notamment le président de la commission. Ce n'est pas ma boîte privée personnelle, a déclaré M. Halloncle. C'est vieux comme l'Assemblée nationale, a-t-il déclaré. Hein, en gros, il dit, bah, c'est du lobbying. C'est du lobbying. On le reçoit tous les jours sur plein de sujets. Ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'on reçoit des questions qu'on les utilise. Et il va plus loin. Je n'ai jamais rencontré la patronne de Lagardère News, Constance Benqué. Je n'ai jamais échangé le moindre message avec elle, ni avec personne de Lagardère. A-t-il martelé, j'ai tenu à mon indépendance la plus stricte tout au long de cette commission. Quelqu'un me dit, mais cette question, c'était quoi ces questions? Alors, on peut trouver, hein, il y avait un article du Monde. Le Monde. Je peux vous en lire quelques-unes. Lagardère. À l'oncle, je vais vous retrouver l'article. Alors. Aïe! Excusez-moi, j'ai problème de cervical. Alors, je pense que j'ai retrouvé l'article. Alors, quel genre de questions? Alors, voilà, par exemple, il y a une question qui était proposée pour Madame Delphine Ernotte, patronne de France Télévisions. Madame la Présidente, comment justifiez-vous d'avoir violé la déontologie et les règles qui s'imposent à un fonctionnaire public de votre rang et de votre responsabilité? Non. Bon, déjà, la question est écrite avec les pieds parce que Delphine Ernotte n'est pas fonctionnaire. Peu importe. Une question qui reprochait à Madame Ernotte d'avoir qualifié CNews de médias d'opinion et de chaîne d'extrême droite. Ouais. Ah, pour le coup, c'est vrai que c'est une question qui a été posée à Madame Ernotte. Alors, c'est 6 pages de questions, nous précise Le Monde. Séquencé en 11 thèmes, c'est bossé, hein. Engagement politique contre l'extrême droite. Ah, c'est vrai qu'il y a eu des questions là-dessus. Ah oui, Monsieur Halloncle m'a demandé, moi personnellement, par exemple, pourquoi je tenais des propos militants sur ma chaîne Twitch. Ouais. Estimant que, par exemple, qualifié comme le Conseil d'État et le ministère de l'Intérieur, le RN de parti d'extrême droite, parti allié de l'UDR de Monsieur le rapporteur, était un propos militant. Donc ça, c'est marrant parce que, effectivement, les questions de Lagardère News portent là-dessus aussi. Engagement politique contre l'extrême droite, prime de performance de Delphine Ernotte. Alors, c'est vrai qu'il y a une question qui a été posée là-dessus à Madame Ernotte. Action en dénigrement de CNews, Europe 1 et le JDD par Radio France et France Télévisions. Intéressant. Il y a aussi des questions proposées à la supposée sensibilité de gauche de l'audiovisuel public. Où sont les chroniqueurs, commentateurs et journalistes dont les idéaux ne sont pas politisés à gauche afin de contrebalancer ces positions pour le moins dominantes dans ce casting? C'est aussi des questions qui ont été posées. lors des auditions. Alors, Monsieur Allonc dit qu'il a effectivement reçu ces questions, mais qu'il ne les a jamais utilisées. Voilà. Bon, ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Revenons à l'article du Figaro. Revenons à l'article du Figaro. Le monsieur Allonc se défend d'avoir utilisé ces questions écrites donc par les médias du groupe Bolloré. Voilà. Et alors, monsieur le président de la commission, Jérémy Patrier-Lettus, du Parti Horizon, lui n'est pas d'accord et déclare son comportement pendant les 6 mois de commission contredit cette thèse. Donc, ce n'est pas le Figaro qui le dit, ce n'est pas moi, c'est le président de la commission. À propos de monsieur Allonc, sa posture lors des auditions marquées par une hostilité systématique envers l'audiovisuel public est identique à celle suggérée par le groupe Bolloré dans ses listes, estime le président de la commission.
Mais non! Mais hasard de dingue!
Pas pourquoi j'ai une table de mixage qui lance des trucs comme ça. Le président. Voilà. La plainte d'ailleurs de l'association là rappelle que ce président de la commission s'est interrogé sur France Inter fin avril sur l'impartialité du rapporteur de la commission, suggérant qu'il avait pu agir par commande de personnes qui veulent racheter l'audiovisuel public à vil prix ou le voir disparaître. Jérémy Patrier-Lettus a également affirmé que des médias très virulents à l'égard de l'audiovisuel public ont accordé une place très importante à Charles Alloncle. C'est vrai que Europe 1, le Journal du Dimanche, CNews ont beaucoup parlé de Charles Alloncle ces derniers mois. Hein? Selon AC Anticorruption, il apparaît plausible que le groupe Lagardère News ait proposé à Charles Alloncle de lui assurer une importante place médiatique permettant de propulser sa carrière politique. C'est des accusations graves, hein? Alors qu'il était inconnu du grand public il y a encore quelques mois. Et pour Lagardère News, avec l'objectif d'aboutir in fine à la réduction du périmètre de l'audiovisuel public, voire à sa privatisation, ce qui lui serait favorable. Alors, l'association AC Anticorruption estime qu'il y a eu un deal, qu'il pourrait y avoir eu un deal, entre M. Alloncle et le groupe Lagardère News. L'avocat qui a déposé la plainte dit: Charles Alloncle n'a jamais servi un intérêt général, mais celui d'un groupe privé, en l'espèce Bolloré, avec pour seul objectif de discréditer son seul vrai concurrent, le service public de l'audiovisuel. Après plusieurs mois de travaux sous haute tension, les députés de la commission ont finalement donné leur feu vert à la publication du rapport de Charles Alloncle. On l'attendait aujourd'hui, mais a priori il sera publié demain. Voilà, on attend de le lire avec impatience. La plainte, alors que dit M. Alloncle? Ah, il arrête. Ah, alors M. Alloncle a réagi à la plainte de l'association. La plainte est déposée à quelques heures de la publication du rapport. Je ne suis évidemment pas dupe, a affirmé l'intéressé. Quant à Lagardère News, ils n'ont pas répondu dans l'immédiat aux questions des journalistes. Salut Stardust, Air Espace, comment vas-tu? Merci Dingo, le Dingo, merci Anti73. Donc voilà pour cet article du Figaro sur cette plainte déposée par l'association AC Anticorruption. Arrêtez les vidéos là, ras-le-bol. Alors je vous lis un petit peu, et puis après je vous lis un article dans le Parisien qui dit vite fait qu'est-ce qu'on attend de ce rapport. Allez, quelques messages, lesquels je lis. Il fallait pas voter pour alors le rapport, dit Nawal Paris. Ah oui, c'est vrai que le président il a voté pour. Certains, notamment à gauche, accusent le président d'être le responsable de la publication de ce rapport. Lui, il dit, même si je suis pas d'accord avec le contenu du rapport, il faut que les gens puissent le consulter. Vous connaissez le débat. Je vous lis, je vous lis, je vous lis, je vous lis. Le rapport fait des suggestions mais n'est pas contraignant. Ah, bien sûr, le lu. On va en parler d'ailleurs. On va en parler de ce que va devenir ce rapport. Je vous le lis, cet article du Parisien? Je vous le mets? Hop! Il est là. Bon, ça, c'est l'article que j'avais prévu de vous lire avant de découvrir qu'il y avait une nouvelle plainte. Donc, on est à la deuxième plainte contre M. Hallon qui a été déposée. Et sinon, il y avait cet article du Parisien ce matin. Mais alors, quelle suite à ce fameux rapport à l'oncle? Donc, moi, je pensais qu'il serait publié aujourd'hui. A priori, c'est demain. Officiellement en close, la commission d'enquête, dont le résultat sera disponible ce mardi matin. Oh! C'est décevant. Il faudra attendre 24 heures. Pourra alimenter les débats pendant la campagne présidentielle. Maintenant que le rapport va être publié, il va pouvoir mourir de sa belle mort, parle un cadre de l'audiovisuel public, qui a vu plus d'un texte censé encadrer le secteur finir dans les placards de l'Assemblée. Après 6 mois d'audition, Charles Hallon rendra public demain mardi son rapport, qui va officiellement clore la commission. À part le jeune député de l'Hérault, personne n'a eu en sa possession le document de 300 pages. 300 pages, 400 pages, on ne sait pas trop. On a lu les deux chiffres dans les médias ces derniers jours. Alors personne n'en a eu la possession parce que les membres de la commission ont pu lire le rapport, mais sans l'emporter chez eux. Ils pouvaient le lire dans une pièce, sans pouvoir faire de capture d'écran, etc. Les membres de la commission qui ont pu consulter l'épais document fin avril ont rapporté à la presse quelques-unes des 75 propositions faites par Hallon, c'est en fait 75 propositions, hein. Notamment une baisse d'1 milliard d'euros par an des dotations publiques, hein, sur 4 milliards d'euros pour l'audiovisuel public, la fusion de France 2 et France 5, donc en gros la disparition de France 5, la réduction d'un quart du budget du service des sports du groupe et des trois quarts du divertissement. Voilà. Ou encore le rapprochement entre France Info et France 24. Ça, c'est quelques-unes des 75 propositions, mais on en parlera demain quand on connaîtra le rapport. Voilà. Ou encore la nomination des dirigeants directement par le président de la République et plus par l'ARCOM. Est-ce que ces propositions vont déboucher sur une loi? Est-ce que le rapport il va aller direct dans un tiroir ou est-ce qu'il va déboucher sur quelque chose? Charles Halloncle dispose d'une fenêtre de tir pour déposer une proposition de loi le 25 juin, hein, lors de la niche parlementaire de son groupe, l'Union des droites pour la République, le parti du maire de Nice, Éric Ciotti, qui vient d'être élu à la mairie de Nice. Selon les informations écrites le Parisien, le groupe ne proposerait dans ce texte que quelques-unes des 75 propositions, c'est gâché quand même, dont celles qui entendent limiter le pantouflage des anciens dirigeants de France Télévisions dans les sociétés de production qui fournissent des programmes aux aides publiques, aux chaînes publiques. Donc l'idée, c'est que quand tu as bossé sur France Télévisions, tu ne puisses pas aller bosser pour un producteur après, de télé. En tout cas, pas de producteur qui propose des programmes pour France Télévisions. Un connaisseur de l'hémicycle explique aux Parisiens que ce texte n'a aucune chance d'être adopté sans les voix des députés du Bloc central. Or, ces députés sont hostiles aux propositions de Charles Hallon. Oui, parce que les voix de l'UDR et du RN ne suffisent pas à voter un texte. Il faudrait des voix de la droite et des voix du Bloc central pour le faire passer. Une bonne commission d'enquête peut permettre d'aboutir sur des évolutions législatives, mais là, il n'y a aucune réflexion sur le rôle de l'audiovisuel en général, sur sa place dans le paysage numérique, rien. Il s'agit juste d'une reprise en main politique des médias publics et d'un affaiblissement financier à coup de taillage à la serpe, déclare le député Modem Erwan Balanan, qui, si je ne dis pas de bêtises, s'est pris le chou à plusieurs reprises avec M. Hallon-Cle pendant les auditions. Pour lui, pour ce député Modem, c'est la bataille des idées qui commence maintenant. Il va falloir défendre notre modèle culturel qui n'a rien d'une gabegie, estime-t-il. C'est un système qui rapporte de l'argent, qui est capital pour nos souverainetés nationales. Voilà. Et lui, il estime que ce débat va s'imposer pendant la campagne présidentielle. Est-ce que ce débat va s'imposer pendant la campagne présidentielle? On le verra. Je ne suis pas persuadé. Lui, pense que oui. Tous les candidats seront sommés de se positionner. Bon. Le rapport d'Hallon va servir de base programmatique à la droite et à l'extrême droite, estime un connaisseur du dossier. Alors parmi les soutiens à Charles Hallon, Marine Le Pen, comme son dauphin Jordan Bardella, qui ont apporté leur soutien à l'oncle. Le président du RN a confirmé récemment effectivement qu'il souhaitait lancer la privatisation de l'audiovisuel public si son parti arrive au pouvoir en 2027. C'est amusant parce que Charles à l'oncle, officiellement, lui, il est opposé à la privatisation. Il dit, moi, je pense qu'il ne faut pas privatiser. Il faut juste encadrer plus l'audiovisuel public. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il est contre officiellement, mais il est soutenu par un parti qui, lui, souhaite privatiser. Ce qui fait sortir d'ailleurs de ses gonds Jérémy Patrieletus, donc le président de la commission. Pendant des mois, Charles Alonque l'a répété qu'il était attaché au service public de l'audiovisuel et à peine son rapport voté, il se prend en photo avec Marine Le Pen qui appelle à la privatisation. Le diable, comme Bolloré, non, faux, Lucie. Bolloré, auditionné par la commission, a dit qu'il était contre la privatisation. Le diable se niche dans les détails. À titre personnel, je plaide pour une fermeture de France 4. Ce qui fait économiser 40 millions d'euros par an et une privatisation de France 5 et France Inter, révèle Philippe Ballard. Ce serait ma privatisation de France Inter, c'est pas con. Imaginons le groupe Lagardère News Bolloré qui rachète France Inter. Ça y aura Europe 1, puis France Inter. Bon allez, let's go. Je veux surtout que France Télévisions se réforme et revoie son fonctionnement dans le sens de mes préconisations. Pour qu'en mai 2027, la privatisation ne soit plus à l'ordre du jour, se défend Charles Alonque, que beaucoup imaginent pourtant ministre de la culture de Jordan Bardella. Cette commission a surtout servi d'immense tremplin à ce jeune député, soupir, un parlementaire. Pourquoi j'ai entendu ce bruit, moi? Ah, c'est mon Teams de 12h30. J'ai un Teams sur la littérature, sur les livres. Donc voilà pour cette petite information. Bon, c'était la dernière information de cette revue de presse ce matin. Amis de YouTube, merci de l'avoir suivi. Et attendez, amis de YouTube et Twitch, je vous garde. Parce qu'on va parler d'un autre sujet pour terminer très vite. Voilà. On va parler de lutte contre les féminicides. Et je vous parler d'une pétition. D'abord, je vous lis un petit peu sur les derniers messages là. Je peux venir à ta réu, Tim, sur le livre? Non, Tim, non, c'est un projet secret. Tu vas analyser le rapport de demain, Sam? Bah, ça dépend à quelle heure il tombe, parce que il faudrait qu'il tombe très très tôt demain. Hein. On en parlera mardi ou mercredi. De toute façon, des articles sur le rapport, il va y en avoir plein. Je suis pas sûr qu'on apprenne beaucoup de choses, puisqu'il y a eu beaucoup de fuites déjà hein, sur ce rapport. Est-ce qu'on va apprendre beaucoup de choses? On va voir. Je suis pas sûr qu'on apprenne beaucoup de choses. Bah, après, 300-400 pages, il y aura peut-être des choses qui n'ont pas fuité. Hein, on verra. C'est ça qui est intéressant. On fait ça? Alors, voilà. Passe décisive d'Arcadae qui me dit « Hello, merci d'avoir partagé la pétition, je l'ai signée hier, 7325 votes actuellement, ça monte trop doucement. » De quoi parlons-nous? Voilà. Et on va terminer avec ça. Point d'exclamation, pétition dans le chat. Hop, et vous allez comprendre, c'est un combat qu'on a décidé de mener ici. Voilà. Pétition, bim, épinglé, vous n'avez plus qu'à cliquer. Que se passe-t-il? La semaine dernière, on a eu un dossier dans Le Parisien essentiel sur la lutte insuffisante contre les féminicides en France. Avec Le Parisien qui fait ce constat qu'on connaît, mais qui méritait d'être rappelé, c'est qu'il y avait un pays en Europe qui avait pris les choses au sérieux, il y a une vingtaine d'années déjà, qui est l'Espagne. L'Espagne a voté des lois et a pris des mesures et a mis des moyens beaucoup plus importants que ceux mis en France pour lutter contre les féminicides, et avec de vrais résultats, de vrais succès. Et en bossant sur le sujet ensemble, c'était en milieu de semaine dernière, mercredi ou jeudi, on s'est rendu compte que ce sujet, la lutte contre les féminicides en France, n'avait jamais fait l'objet d'une commission d'enquête parlementaire. Alors qu'il est pourtant un endroit intéressant pour réfléchir, parfois, et de communiquer sur le sujet. Et donc, quelqu'un dans le chat me l'a dit, mais est-ce qu'il y a eu une commission d'enquête parlementaire? On est allé voir et on s'est rendu compte qu'il n'y en avait pas. Ce qui est hallucinant en vrai. Voilà. Et dans nos recherches, on a trouvé que si cette commission d'enquête n'existait pas, en revanche, il y avait une pétition que je vous montre. Il y a une pétition qui existait, qui a été lancée il y a 4 mois sur le sujet, qui est là. qui demande justement cette pétition sur le site de l'Assemblée nationale, eh bien que soit créée une commission d'enquête sur le sujet. Voilà. Cette commission d'enquête qui n'a jamais existé. L'IRL de la pétition a changé, le lien épinglé ne marche plus. Je viens de cliquer littéralement sur mon lien. Donc je pense que ça va. Je pense que c'est ton téléphone, ton iPad ou ton PC qui est à changer. N'hésite pas à demander ça pour ton anniversaire ou pour Noël. Donc voilà, là vous avez donc la pétition dont je vous parle. Il y a la semaine dernière, cette pétition avait 112 signatures. Et on s'est dit, c'est pas possible. Sachant qu'il y a un cap important à franchir, qui est le cap des 100 000 signatures. À 100 000 signatures, la pétition sera mise en avant sur le site de l'Assemblée. Et il y a un autre cap important, qui est le cap des 500 000 signatures. À partir de 500 000 signatures, l'Assemblée peut s'en emparer pour faire un débat dans l'hémicycle. Voilà. À supposer qu'il le fasse, puisque récemment, sur la loi... sur la nouvelle définition de l'antisémitisme en France, les 500 000 signatures ont été atteintes et pourtant il n'y a pas eu de débat. Voilà. Mais en tout cas, ça permet de communiquer sur le sujet, sur la loi Yadan, exactement. Donc là, on est parti de 112 et on a 7338. Pourquoi ? Parce que vous êtes mobilisés, parce que vous avez parlé de cette pétition autour de vous, vous en avez parlé à vos amis, à votre famille, à vos créateurs de contenu et créatrices de contenu préférés, à vos streamers, à des streamers et des streameuses. Voilà. Nous partîmes 112 et nous sommes à 7338. Donc en l'espace de quelques jours, en moins d'une semaine, l'augmentation elle est folle. Mais elle est insuffisante. Voilà. Je vous lis le texte est très très court. Jackie Achoud est l'auteur de cette pétition et il est concerné puisque lui il a perdu sa compagne assassinée par son ex. Voilà. Donc, il connaît très bien le sujet. Et il a écrit ce texte. Je constate avec effroi l'augmentation des féminicides dans notre pays. Je demande des réponses claires. Depuis plusieurs années, des femmes sont tuées par des proches, souvent après des signalements ou des demandes d'aide restées sans suite. Je ressens de la colère et de l'impuissance face à ces drames récurrents. Les familles pleurent des mères, des sœurs, des filles. Les chiffres officiels semblent insuffisants pour mesurer l'ampleur réelle du phénomène. Notre demande urgente, je demande la création urgente d'une commission d'enquête parlementaire, donc, qui établira l'étendue des défaillances institutionnelles, policières et judiciaires, proposera des mesures concrètes pour protéger les victimes et prévenir les homicides sexistes. Deux. Voilà. Une demande qui vise à mettre fin à l'absence de réponse structurée et à redonner confiance aux victimes qui cherchent de l'aide. Mission et mesures proposées pour cette commission. Je propose que la commission enquête sur les procédures de signalement, l'accès aux ordonnances de protection, hein, la formation des forces de l'ordre, la coordination entre services sociaux et judiciaires, parce qu'en France, il y a une loi qui a été votée, il y a des moyens qui ont été mis en place mais qui sont insuffisants. La commission devra entendre des victimes, des associations, des magistrats, des policiers. Elle devra analyser les données disponibles et proposer des indicateurs de suivi. Les parlementaires porteront ces recommandations et prévoiront des moyens budgétaires pour les appliquer. Des mesures concrètes seront proposées pour renforcer la prévention, accélérer les procédures de protection, assurer un suivi effectif des personnes menacées. La commission rendra un rapport public et des recommandations chiffrées et des échéances précises. Appel à la mobilisation. Je vous appelle à signer cette pétition pour demander aux députés et sénateurs d'initier immédiatement la commission. Voilà. Ekaryu, hello, patience. Rendez-vous bientôt. Voilà. Et depuis que nous avons parlé, on est déjà à 7423. Cette pétition est très bien écrite. Elle demande exactement ce dont notre pays a besoin. Notre pays a besoin d'un débat public sur cette question pour sensibiliser les citoyens, les citoyennes à ce sujet. Voilà. Et que la population soit sensibilisée, que les élus le soient de plus en plus et que des moyens soient mis en œuvre. L'Espagne l'a fait, ça a marché. Voilà. Donc si nos voisins espagnols peuvent le faire, on peut le faire aussi. Voilà. N'hésitez pas à en parler autour de vous. On va continuer à en parler régulièrement dans les prochaines semaines, les prochains mois. On va essayer de faire monter la mobilisation autour de cette pétition. Voilà. Dingue qu'on n'entende pas plus parler de cette pétition. Ben, elle est passée un peu inaperçue. Mais on va essayer justement de changer les choses là-dessus. L'Espagne est gouvernée à gauche. La loi a été votée il y a 20 ans en Espagne, mon chouchou. Ça n'a rien à voir. Ouais. Ce n'est pas un débat politique. Tous les partis doivent s'emparer de ce sujet. Voilà. Si vous voulez savoir ce qu'a fait l'Espagne exactement, on en a parlé la semaine dernière dans un dossier du Parisien extrêmement clair sur le sujet. Voilà. En replay, vous avez toutes les infos. Pour quiconque voudrait s'intéresser, se documenter, s'informer sur le sujet, vous avez plein d'articles sur Internet extrêmement bien faits sur le sujet, notamment sur les chiffres des féminicides en France, reportés par les autorités et les associations. Ok ? Point d'exclamation, pétition. Merci à tous, merci ce matin. J'ai un petit Teams à 12h30 là, pour parler de littérature. J'ai un autre Teams à 13h30 pour préparer le MVP de mercredi. Prenez soin de vous, on va faire un raid. Voilà. Merci d'avoir été aussi nombreux ce lundi matin. Oh, qu'est-ce qu'il fout le chouchou ? Il y a l'ami Rayou qui doit être en plein training, non? Ah non, pas du tout. Je veux dire qu'il est en plein training, Zilane, pas du tout. Il y a l'ami Rayou qui est en cast du plus gros tournoi Smash de tous les temps avec plein de gens. Oh, l'image est impressionnante.
Waouh!
Ok. Bon, vous savez que c'est son jeu, hein, mon Rayou. Smash, voilà. Je vais lui envoyer un petit message pour lui demander de regarder vite fait cette pétition aussi. Voilà. Pourquoi pas, pour que la commune d'étoiles se mobilise aussi. On va voir l'ami Rayou. J'aime bien le voir streamer le matin. Voilà. Rappelons que c'est un peu grâce à lui que je suis sur Twitch. Voilà. On va voir Étoile, ce tournoi qui est... Waouh, l'image est impressionnante. Voilà. Tu devais pas nous parler d'un projet aujourd'hui ou en début de... Peut-être demain. J'ai peut-être une annonce à vous faire demain. Peut-être mercredi. Enfin, en tout cas, c'est imminent, ouais. Je lance le raid. Des bisous. À demain matin. Au plus tard pour la revue de presse demain matin. Je coupe la caméra. Comme ça, il peut rien se passer. Voilà. Et je mets ça aussi. Je raid Rayou. Et je vous retrouve. Demain matin. Au plus tard. Merci pour ce matin. Ciao.